Et oui, ce soir, à l'émission Connaître la suite, on reçoit Yann Sénéchal du Réseau Liberté Québec et on s'entretient aussi avec Danny qui a une chronique pour nous et moi-même. Donc, on se retrouve dans 2 secondes à l'émission Connaître la suite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Connaître la suite sur les ondes du XM 172 et du www.radioshock.fm. Bonsoir Danny, ça va bien?
Oui, ça va bien toi Steve.
Après ce repos de 3 semaines, repos forcé, faut le dire,
ouais.
On a laissé la place aux Canadiens de Montréal et le Canadien finalement s'est tassé de lui-même.
Ils ont pris notre place.
Ils ont pris notre place, effectivement. Mais le Canadien, c'est gros, hein, fait que ça prend beaucoup de place.
C'est sûr.
Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir parler de autre chose au Québec que du Canadien de Montréal. C'est sûr que la politique aussi va en arriver à ses fins lundi prochain avec les élections. Et ben comme ça, on pourra avoir, je dirais, pour les prochaines semaines, le champ libre et vous informer et surtout discuter avec nos invités qui vont venir traiter de sujets. Parce que là, moi et Danny, on est vraiment crinqués, hein, comme on pourrait dire en bon québécois. Mm-hmm. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont venus nous rencontrer à l'événement du Réseau Liberté Québec qui a eu lieu le 16 avril à Montréal. Et d'ailleurs, parlant de l'événement en question, ben on a avec nous ce soir Yann Sénéchal. Bonjour Yann.
Salut Steve, ça va bien?
Ça va bien?
Oui.
Oui, remis un peu de l'événement justement?
Ah oui, ça a été une couple de jours à se remettre de ça. Beaucoup d'efforts on a mis là-dedans, mais on a eu beaucoup de plaisir, ça a valu la peine.
Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise à construire cette... Bon, ça dure une journée, mais il y avait beaucoup d'efforts. Puis, sérieusement, je vous félicite parce que c'était une deuxième occasion pour vous autres, justement, de faire valoir un peu la direction que vous donnez à ces événements-là. Puis, on a vu vraiment une bonne différence avec l'événement de Québec, que ce soit par la logistique, vraiment, là, c'était grandiose parce qu'on avait l'impression d'assister à un grand rassemblement comme on peut le vivre. Puis toi, t'as été en politique, t'as vu des rassemblements. C'est quoi ta première impression, justement? Comment tu qualifierais l'événement, là, de vue de l'extérieur? Est-ce qu'on c'est comparable à des congrès qu'on peut vivre au sein de certains partis politiques?
Oui, facilement. J'ai vécu beaucoup de conseils généraux et de congrès à la DQ et c'était incomparable.
C'était incomparable.
C'est sûr, on s'en est permis un peu plus. La première fois qu'on organisait ça, le 23 octobre, on partait avec l'argent qu'on avait mis nous-mêmes de nos poches.
Ben oui.
Donc, on voulait vraiment pas prendre de risques. On voulait être sûr d'avoir des gens. On n'a pas fait trop payer cher les gens. Donc, on a vraiment joué conservateur. Et puis, la deuxième, on s'en est permis un peu plus. On a quand même doublé le prix des billets. Puis, on avait une belle logistique. On avait une belle salle aussi. Ça l'a vraiment bien été.
Puis justement, comment... Parce que tu l'as bien dit au départ, là, c'était... un peu essai-erreur. On va tenter l'expérience, puis on va voir la réponse des gens. Mais là, maintenant, je pense que vous devez sûrement avoir des chiffres en tête, puis vous savez que vous avez comme une base, puis à partir d'aujourd'hui, là, vous regardez quoi, du 3, 4, 5 plus, j'imagine, là, de façon systématique, là, s'il y a d'autres événements qui viennent?
Oui, mais effectivement, nous autres, nous, quand on a commencé, d'ailleurs, les premières réunions qu'on a faites, c'était à peu près au mois de mai l'année passée. On était assez modeste dans nos objectifs. On pensait qu'on réussirait peut-être à avoir 100, 150 personnes à un premier événement. On pensait aussi qu'on aurait de la difficulté à trouver des conférenciers. Donc, on faisait du brainstorming. On disait, ah, OK, qui on aimerait avoir comme conférencier? On mettait les noms sur une feuille, puis on les téléphone un par un, puis ils se mettent tous à accepter un après l'autre. Donc, on a senti que déjà là, ça allait avoir un succès. Et puis, quand on a commencé les ventes en septembre et octobre, de réunir 450 personnes, c'était au-delà de nos attentes. On s'attendait à 100, 150. Alors, là, ça a commencé. Là, on a commencé à penser à d'autres choses. On a commencé à penser aux sections locales. On a commencé à penser au membership. D'ailleurs, le membership, ça va très bien. On est rendu à 850 membres.
Ben, c'est
membres.
Ça. Fait que vous avez une base solide, là.
Effectivement. Donc, ça nous a permis de prendre un peu plus de risques pour le deuxième événement. Malheureusement ou heureusement, il y a eu une campagne électorale. Ça l'a fait qu'on était un nombre un peu plus réduit que ce qu'on pensait. On visait peut-être 600 personnes. On en a eu 440-430. La première fois, on avait eu 460. Puis là, on était à Montréal. Fait qu'on est quand même très, très satisfait là, de ce qui s'est passé. On aurait été curieux de voir combien on aurait eu de gens sans la campagne électorale. C'est sûr qu'il y en aurait eu plus. On a des tonnes de courriels de gens qui nous disaient « Ah, ben là, je peux pas y aller, les boys. Vous êtes bien smart, mais je joue dans mon comté. » Puis, je veux pas, on attire beaucoup de militants politiques aussi. Les gens sont très investis dans ce qu'on fait. Alors, on est hyper satisfait. On a eu vraiment une belle journée. Puis encore là, ça a été une autre fois très facile d'avoir les conférenciers. Daniel Smith, ça l'a pris 15 minutes à accepter son invitation. On est vraiment resté impressionné.
puis justement, parlons-en. Puis je pense que les panélistes, de fois en fois, on voit que, écoute, vous brossez assez large, là, parce qu'on est allé là dans l'Ouest canadien. Il y avait pas juste Daniel Smith de l'Ouest canadien, il y avait des gens de l'Institut Fraser.
Effectivement.
Donc, ça veut dire que le réseau Liberté Québec, c'est pas uniquement au Québec qu'on entend parler. Dans le Canada anglais. Puis vous avez une couverture aussi du côté Canada, du Canada anglais. Je pense que vous avez fait la une de quelques filières de presse.
Effectivement, oui. Le premier événement, on avait été très couvert par le Canada anglais. On avait été couvert par le Maclean's avec Martin Patriquin. Les journaux Sun Media nous avaient couvert aussi. La presse canadienne anglophone nous avait couvert. Et puis cette fois-ci, on a eu un petit peu moins de couverture, mais on est quand même des antennes. On a aussi une réputation qu'on a commencé à se faire. Quand on a invité Ezra Levent au premier événement, Ezra est quand même très connu dans le Canada anglais, oui. Il parle, et puis lui, quand il est sorti du Québec, il avait été impressionné. On se rappelle, il nous avait dit, la journée de la conférence, il dit, d'habitude, je vais à des assemblées conservatrices, je donne des speeches, les gens sont âgés, c'est 50, 60 ans. Oui. Il se passe quelque chose au Québec, c'est très jeune, c'est assez spécial. Et puis ça, ben, ça devient un peu des ambassadeurs pour nous. Là. Quand on arrive, on fait un bon show, on a une bonne couverture médiatique dans le Canada anglais, Ezra Levent parle en notre faveur, puis après ça, on arrive pour inviter une femme comme Danielle Smith, qui est quand même probablement une future première ministre en Alberta. Et puis, elle accepte tout de suite. À quelque part, on voit qu'on a une bonne réputation. On a des bonnes relations avec le Manning Center. Ça aussi, c'est. On essaie vraiment de construire parce que je pense que le mouvement conservateur au Québec, à quelque part, une des faiblesses qu'il y avait, c'est qu'on était très centré sur nous-mêmes. Au Québec, on a tendance un peu à faire ça. On pense que il y a juste nous qui vivons les choses que nous vivons, puis qu'on peut pas avoir d'aide de l'extérieur. Mais des partis conservateurs, il y en a dans toutes les provinces canadiennes. Il y en a un au parti fédéral. Il y a des organismes, des think tanks aussi à l'extérieur du Québec qui peuvent nous appuyer. Alors, c'est important d'avoir ces antennes là. Et puis, c'est une belle relation à avoir aussi. Je pense que éventuellement, au Canada, le Québec, un de ses meilleurs alliés va probablement être l'Alberta, parce que ces deux provinces sont assez autonomistes, qui veulent rapatrier des pouvoirs, qui veulent les chiens de garde du méchant gouvernement fédéral qui veut intervenir dans les champs de compétences provinciales, mais l'Alberta c'en est un bon, le Québec c'en est un bon, donc c'est des alliés naturels à mon avis. Et puis ce qui est de valeur, c'est ce qu'on voit au Québec, c'est justement des fois les relations de notre premier ministre avec cette province-là sont très mauvaises à cause principalement de l'environnement, mais on faudrait voir qu'on a beaucoup à gagner. Moi, je pense que les gens du Réseau Liberté Québec qui ont assisté à la conférence de Daniel Smith ont vu qu'il y a beaucoup de choses à gagner, à avoir des bonnes relations avec cette province-là.
Puis je pense que c'est un moyen aussi de faire passer le message très fort en ayant justement des acteurs comme ça qui sont, comme tu dis, des acteurs clés au Canada qui vont peut-être demain être les plus ardents défenseurs de cette intrusion-là du gouvernement fédéral dans nos vie. Puis je pense que l'Alberta, puis au Québec, comme tu dis, on parle des deux côtés de la bouche par rapport à l'Alberta. Puis ce qui était plate un peu de la couverture de l'événement du 16, je me suis rendu compte que dans les journaux, on a dépeint l'Alberta comme le méchant garnement qui est venu donner une leçon au Québec. Mais non, c'est pas ça du tout, parce que de l'intérieur, je me suis pas senti remontré par Danielle Smith. Au contraire, là, je pense qu'elle nous a shaké le pompon, comme on dirait.
Mais jusqu'à quel point c'est qu'elle a vraiment shaké les gens dans la salle aussi? Sérieusement, les journalistes, eux autres, peuvent être un peu déstabilisés par ce type de discours-là. On n'entend pas ça souvent, mais les gens dans la salle, qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est on veut plus n'avoir de péréquation, parce que la péréquation, là, c'est pour les provinces pauvres. Il faut qu'on prenne soin de nous autres. On se paye des programmes sociaux que les autres provinces ne se payent pas, puis en plus, on a reçu un chèque.
Mais quand je dis shaker le pompon, c'est justement, elle nous a dit quand même nos quatre vérités, quand elle a dit, écoutez, vous payez des programmes que nous, on n'a pas le luxe de se payer. Fait que, parce que il y a des gens que, oui, la péréquation, puis il y en a qui l'ont passé, la réflexion, lors de l'événement, à l'effet que l'Alberta en a profité de la péréquation, comme les provinces maritimes en ont profité, puis en profitent encore. Mais, somme toute, le message à l'inverse, c'est oui, profitez un peu de la manne, parce que il y a peut-être un déséquilibre fiscal qui défavorise votre province, mais là, ce qu'on fait depuis de bon nombre d'années, surtout avec le passage du Parti québécois dans ses derniers mandats, on se retrouve aujourd'hui avec des programmes qui sont très onéreux et qu'on est les seuls au Canada à se payer. Donc, ouais, se le faire dire, je pense que il faut avoir l'audace de le faire, puis pas la langue de bois, puis c'est ce que moi j'ai apprécié de cette personne-là, puis fallait le faire. Tu viens au Québec, puis mais je pense qu'elle pouvait pas ne pas le faire. Sinon, on aurait trouvé...
C'est très caractéristique de ce qu'elle fait elle-même dans sa propre province. Je veux dire, c'est un phénomène qui se passe présentement en Alberta, d'avoir Danielle Smith évolué. Présentement, le gouvernement qui est en place, c'est le gouvernement progressiste conservateur. Je pense que c'était Ed Stelmach qui était premier ministre. Il a démissionné récemment. Ce parti-là est au pouvoir depuis 40 ans. Il y a 40 ans qu'ils sont là. Et puis, à quelque part, là ce qui est en train, c'est l'Alberta est en train de vivre, là, il y a une bulle, il y a une vague qui est en train de monter. C'est le Wild Rose Alliance. Danielle Smith qui en est la chef. Et ça, c'est en train de prendre forme, cette vague-là. Et puis, ce parti-là est plus à droite que le Parti conservateur.
Tout à fait, oui.
Donc, c'est quand même assez spécial. C'est une dynamique qu'on n'est pas habitué de voir au Québec.
Oui, mais, tu sais, en même temps, au Québec, on dit que les politiciens comme ça, qui sont francs, en jeu, tu sais, puis qui... Ça passe pas, mais ça fonctionne maintenant en Alberta, là, je veux dire. Puis, ils étaient déjà à la droite, puis là, ils s'en vont
Moi, je crois pas à ça que ça passe pas. Moi, je
c'est
pense
ça,
que ça peut
c'est là mon point. C'est que là, avoir les journalistes qui en ont fait un tollé, puis de dire, ah oui, c'est outrageux de venir faire la leçon au Québec, mais quelque part, c'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. C'est ce qu'on veut avoir. C'est des politiciens qui nous disent les vraies choses, puis qui nous donnent leur juste par rapport aux décisions qu'on prend. Moi, j'apprécie d'un que la tribune soit donnée à ces gens-là, puis je trouve que les gens aussi qui étaient là buvaient les paroles de ces personnes-là, parce que quelque part, c'est ce qu'on veut entendre aussi. Ça rallie les positions des gens de droite au Québec qui veulent enfin des ministres, des députés qui vont acter les préoccupations du quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Mais par rapport à l'événement, puis le choix justement d'une Danielle Smith, comment parce que là tu parles d'Ezra qui vous a amené peut-être à établir ces liens-là. Est-ce que c'est Ezra qui a fait en
non.
Ce nom?
Ça, c'est, non, c'est vraiment Roy Eapen. C'est un des cofondateurs qui a un très bon carnet d'adresses, surtout dans le Canada anglais. Et puis non, Ezra, dans le fond, c'est juste que ce que je disais, c'est qu'il propage un peu
la bonne
nouvelle. Moi, j'étais au Québec, j'ai été bien accueilli, c'était le fun. Fait que dans le fond, on a une bonne réputation, le Réseau Liberté Québec, dans le Canada anglais. Mais le contact, l'idée, c'est venu, je pense, dans les fêtes. On se disait, OK, là, le prochain événement, on va commencer à y penser, tout ça, puis qui est-ce qu'on pourrait inviter, puis on commence toujours, tu sais, on se garde tout le temps. La première personne qu'on choisit, c'est toujours le conférencier principal.
Ouais.
Et puis là, on s'était dit que ce serait le fun d'essayer Danielle Smith. C'était vraiment la vedette montante dans le Canada anglais. Et puis le but de faire découvrir des gens aux Québécois, de sortir un peu du carcan habituel, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis nous autres, c'était quasiment un no-brainer de demander à okay. Danielle.
Puis comme tu dis, ça a été facile d'avoir son oui, là. Ça n'a pas été
Oui, parce que c'est pas vrai que les autres provinces sont fermées au Québec. C'est juste que quand on parle de deux solitudes, à quelque part, je pense que le Québec fait pas sa part, dans le sens que il y a une ouverture dans le reste du pays pour avoir des discussions avec nous autres, puis tout ça. Mais maintenant, il faut arrêter d'arriver inquiéteux. Il faut venir avec d'une manière proactive. D'une manière positive. Et puis, je pense c'est ça que le Réseau Liberté Québec fait. On n'a pas été demandé quelqu'un qui serait gentil avec nous autres. On est allé chercher quelqu'un qui regarde, dis ce que tu veux, nous autres, les gens, ils sont prêts à t'entendre, tu vas avoir un auditoire sympathique. Puis, ça a été un succès. Elle a vraiment apprécié son séjour.
Ben, je pense que oui, parce que ça paraissait aussi dans son visage qu'elle semblait en tout cas éprouver, je pense, un certain plaisir quand même à parler à une crowd. Là, j'ai le terme anglicisme.
C'est même bon pour la province de Québec, oui. Dans le sens que si la dame devient première ministre en Alberta, je veux dire, on lui a laissé une bonne impression avant de partir. Je veux dire, à quelque part, là, si... On a peur que les gens de l'extérieur soient anti-Québec. Mais je veux dire, Danielle Smith, elle peut pas être anti-Québec. Non. Je veux dire, elle a eu une belle expérience au Québec. Puis c'est un peu grâce à nous. Puis on en est fiers.
Puis, il n'y avait pas seulement Daniel Smith, il y avait M. Kelly Gagnon qui était là dès le départ. Ben, il y a eu le discours inaugural par Joanne. Je veux en parler du discours. Comment vous arrivez à l'intérieur du réseau, justement, pour établir ce discours d'ouverture-là? Parce que c'est le moment, tu sais, c'est le marqueur de la journée. On lance la journée là-dessus. Comment est-ce qu'on en vient à prioriser dans le paysage québécois, justement, par rapport aux priorités? Comment est-ce qu'on en arrive à ce discours-là?
En fait, ça me fait rire de poser la question parce que je pense que j'ai laissé Joanne la veille de l'événement. Je pense qu'il était 9h30, 10h. Elle a dit là, il faut que je retourne dans ma chambre, j'ai la moitié du discours à écrire. Là. J'étais pas prêt. Mais dans le fond, c'est simple, je veux dire. Elle veut pas, on fait tellement des entrevues beaucoup pour le réseau Liberté Québec. Ouais. On connaît un peu le discours qu'on veut utiliser. C'est plutôt simple. On a quand même une partie qui est assez rigide. On sait ce qu'on veut faire. On a des gens remerciés. On a des gens qui nous rendent service. Je pense que vous avez été nommé dans le discours.
Oui, merci. J'avais même pas entendu sur le moment. C'est quand j'ai entendu les extraits. D'ailleurs, on va indiquer aux gens comment peut-être aller consulter le matériel audio de l'événement. Mais quand j'ai réécouté, ben, Colin, on avait été remercié. Ça m'avait même pas passé à l'esprit. Mais c'est ça. Donc, le discours, c'est de l'inspiration en partie, puis des lignes directrices que vous vous donnez à l'avance.
Oui, puis tu sais, faut toujours avoir conscience, c'est quoi notre but. Nous, c'est de faire du réseautage, c'est de mettre des gens à l'avant-scène. C'est dans le fond, c'est juste normal qu'on remercie les gens comme qu'on fait, qu'on mette en évidence des gens. On a parlé d'antagonistes dans le discours d'ouverture, que ça fait longtemps qu'il travaille sur son blog. On a parlé de Jeff Filion, on a parlé de plusieurs acteurs de la droite politique. On pense que c'est important de le faire parce que quand on se réunit comme ça, là, le but, là, c'est pas que Joanne Marcotte, c'est pas que Yann Sénéchal, Éric Duhaime deviennent des vedettes. Le but, là, c'est qu'il y a plus de gens possibles qui apprennent à se connaître, qui fassent des relations, et puis ça fait partie de la game. Je veux dire. C'est vraiment, le réseau Liberté Québec, c'est pas pour rien que le premier mot du nom, c'est réseau. C'est le but de tout. Là.
Donc, discours inaugural, on a eu M. Kelly Gagnon, donc avec un discours aussi très intéressant sur l'esprit du coureur des bois. Donc, ça a été aussi très intéressant de nous ramener à cette partie de l'histoire, et comme le disait justement M. Kelly Gagnon, qu'on tente au Québec de nous faire oublier. Hein. On semble nous dire que...
La plupart des gens vont penser que le Québec, ça commence en 1960. C'est pas ça. Le Québec, ça a 400 ans. On l'a vécu. Il y avait un esprit. Le gouvernement n'a pas toujours été là. Ouais. Le gouvernement n'a pas toujours été là. Les Québécois, c'est des gens qui sont entreprenants, qui ont pas peur, qui ont passé au travers d'épreuves difficiles partout à travers le temps. Et puis, à quelque part, il faut qu'on revienne à notre histoire. Il faut qu'on soit fier de notre histoire pour voir qu'on n'a pas toujours été dans une culture de dépendance. Parce que c'est pas vrai que les gens du réseau de Liberté Québec ne sont pas fiers d'être Québécois. Ils sont très fiers d'être Québécois. Ils sont juste pas fiers de leur élite qui gère leur gouvernement. Mais en bout de ligne, ils sont fiers d'être Québécois. Tout ce qu'ils demandent, c'est justement ramener des valeurs de libre entreprise, ramener des valeurs de responsabilité individuelle.
Tout à fait. C'est important de le dire, ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'on est anti-Québécois, même à renier nos parents. Là.
Si on serait anti-Québec, ça fait longtemps qu'on serait parti. On n'est pas anti-Québec. On veut justement... À quelque part, quand tu regardes ta province, tu dis, je vois clairement qu'est-ce qui serait notre potentiel. Et je vois qu'est-ce qu'on fait. La journée que tu dis, il y a un gros écart entre les deux. Je pense que de dire, il faut apporter des correctifs pour aller chercher notre potentiel, c'est pas être anti-Québec, ça. C'est simplement être justement un vrai Québécois, être fier, puis vouloir justement implanter des valeurs qui sont importantes à nos yeux. Et puis, je pense qu'on peut construire autour de ces valeurs-là, puis c'est ça qu'on essaie de faire.
Oui, puis c'est vrai que quand on a des discours rafraîchissants un peu comme M. Kelly Gagnon, puis qu'on les met en perspective par rapport justement à des valeurs réelles, là, qui sont pas superflues, là. Je pense que là-bas, tout le monde a des valeurs très profondes, là. C'est pas juste l'argent qui mène à droite, là. Arrêtez de penser ça. C'est intéressant de voir que justement, ce n'est pas justement des discours essentiellement économiques ou stratégiques par rapport à des mesures sociales, non. ça, c'est un vent de fraîcheur pour moi d'avoir un discours comme ça qui nous ramène à l'essence même, des fois, de l'existence d'un pays, d'une région comme comme la province. Ensuite, on a eu les conférenciers, donc le panel avec tous ceux qui nous ont parlé de la question des gaz de schiste. Ça a été intéressant aussi comme dynamique. Comment vous êtes arrivé, justement, parce que c'est assez controversé au Québec, comment vous êtes arrivé à choisir ces acteurs-là dans le milieu, justement, du gaz de schiste?
En fait, ce qu'on essaie de faire dans notre journée, on a des speeches qui sont vraiment motivateurs. On a des speeches, justement, d'une personne qu'on essaie de faire découvrir, Daniel Smith. Mais à quelque part, on veut aussi avoir une partie éducative. La première fois, on avait été sur le thème du nationalisme. On avait eu des discours de Gérard Deltel, de Maxime Bernier, mais aussi de Frédéric Théétu, qui avait été quand même assez théorique sur les aspects du nationalisme, du patriotisme. Donc, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'avoir un sujet, puis de le pousser en profondeur, puis d'aller chercher différents aspects. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. On est un réseau, on n'est pas un parti politique. On peut se permettre de se contredire sur une scène. Et puis, c'est vraiment...
Et il y en avait de la contradiction, là.
Il y en avait beaucoup. Et puis, ce qu'on essaie de faire... Mais ce qu'on essaie de faire, dans le fond, c'est vraiment la partie éducative de la journée. C'est sûr que c'est un des débats qui sont plus complexes un peu, mais ça fait partie de la game, je pense. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait parler des gaz de schiste, des ressources naturelles. C'est sûr que ça a été plus vers les gaz de schiste, évidemment. Mais le discours environnemental, on l'entend en masse. Ça, on voulait pas aller vers là. Ça, c'était pas notre but. On se disait, de toute façon, les gens ont accès au discours-là. Le discours qu'on n'entend pas souvent, c'est le discours économique, savoir que les jobs qui pourraient être créés, ainsi de suite, l'impact économique sur la province ou sur les revenus de l'État, et l'aspect droit de propriété aussi. Ça, c'est encore un sujet qui est assez complexe, et comment gérer ça, ainsi de suite. On trouve que ces acteurs-là qui ont ce discours-là, on les entend pas souvent. Donc, on a vraiment voulu focusser sur ces deux éléments-là, mais on voulait pas avoir du monde qui était nécessairement d'accord. C'est comme ça qu'on a... Premièrement, on était chercher Martin Mars, qui maîtrisait le
droit de propriété, oui.
Oui, l'aspect droit de propriété, justement, qui parlait beaucoup un discours libertarien, comment que... En tout cas, ce discours-là nous intéressait. Il avait écrit un texte à l'automne qui était très intéressant, ce sujet. Il avait été repris par Le Devoir, je me trompe pas, son texte. Donc, on a été chercher Martin. Ensuite, on avait Monsieur Benyon qu'on a invité. Lui, c'est un acteur direct de l'industrie. Lui, là, il est dans le business. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans. il a fait une conférence qui était très intéressante aussi.
On voit que c'est un passionné là, dans son
Effectivement,
domaine.
Effectivement, il fait ça, je pense, depuis 20 ans, le gars. Là, fait que c'est bon d'avoir l'input de ces gens-là. Lui, c'est sûr qu'il est pour le développement, je veux dire. Puis sa conférence est intéressante. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que dans le fond, il y a un droit de propriété, lui, sur son sous-sol, puis il faut qu'il négocie. Puis son but, là, c'est pas d'arriver d'exproprier des agriculteurs. Lui, son but, c'est de s'entendre avec les agriculteurs parce qu'il faut qu'il y ait une situation de win-win pour que ça marche. C'est vraiment là-dessus qu'il veut focusser. Ensuite, ben là, on avait Normand Mousseau, qu'on a invité. Normand avait édité un livre sur les gaz de schiste à l'automne également. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de livres de publiés sur le sujet au Québec. C'est à peu près un des seuls. Donc, évidemment, pour crédibiliser l'événement, on avait besoin d'aller chercher un gars comme lui. Je veux dire, passer à côté de Normand Mousseau sur ce sujet-là, ça aurait été faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, je pense. Il s'imposait de lui-même avec le livre qu'il avait publié. Et puis, finalement, pour compléter l'atelier, on a invité Jerrine Javine, qui a déposé un mémoire dans la commission du BAP qu'il y a eu récemment au Québec. Et puis, M. Javine a plus focusé sur l'aspect création d'emplois.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe quand une industrie du gaz de schiste s'implante au Québec, par exemple? Qu'est-ce qui va arriver avec l'économie? Parce que c'est pas juste des emplois qui vont être créés dans le forage des puits. Il va aussi avoir des emplois tout le tour avec la restauration, avec les hôtels, avec les avocats, et ainsi de suite. Donc, il y a une création d'emplois indirects. Lui a vraiment amené cet aspect-là plus intéressant, plus théorique aussi. Faut pas s'en cacher. Mais on pense que c'était vraiment le but de la journée. On avait deux personnes qui était contre le développement des gaz de schiste dans la forme actuelle, qui demandait des réformes majeures pour pouvoir le développer.
Pour deux raisons différentes.
Pour deux raisons différentes.
C'est ça qui était spécial.
Mais Monsieur Mars, qui lui dit, ça serait bien le fun de développer ça, mais tant et aussi longtemps que c'est pas les propriétaires terriens qui reçoivent les redevances au lieu du gouvernement. Lui, ce qu'il disait, c'est moi, je veux rien savoir du gaz de schiste, c'est juste pour engraisser les coffres de l'État. Donc, lui, il refusait que ça se développe de cette façon-là. Monsieur Mousseau, lui, ce qu'il disait, ben, c'est le contraire. moi, je veux pas que ça se développe, le gouvernement n'aura pas assez. Fait que, tu sais, c'était vraiment spécial de ce côté-là. Les deux autres, évidemment, eux autres voulaient, ils étaient en faveur du développement.
Juste, on ouvre une petite parenthèse parce que les gens, même sur la tribune, là, les quatre personnes que tu parles, là, qui étaient parmi les panélistes, ils ont pas hésité à exprimer leur désaccord par rapport aux autres et rapidement en plus. Là, donc, c'était intéressant
de voir la moment, ils n'étaient pas censés avoir le droit de faire ça.
mais je veux dire, tu sais, c'est emprunt aussi de liberté, je pense, au plus grand sens du mot. Tu sais, on n'a pas senti que c'était cadré, justement, puis qu'il y avait, tu sais, une droiture.
Ah, puis on leur impose pas les speeches.
Ben, c'était la prochaine question, parce que c'est la question que j'ai eue cette semaine. J'avais demandé aux gens de poser des questions. Donc, les gens se demandaient, sans dire qu'il y avait une générale, mais est-ce qu'il y avait une revue des textes ou des...
Non.
Donc,
non, vraiment
vous laissez carte blanche aux gens.
Oui, puis c'est le but. On pense que pour avoir le meilleur événement possible, il faut que les gens aient une liberté d'action, dans le fond, qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent.
Parce que les gens voient en la droite beaucoup de
contrôle.
Oui, puis comme de quoi que c'est un discours, tu sais, qui est contrôlé. Là. Il y a comme une élite là, de la droite qui contrôle. Puis je pense que quand on fait ce reproche-là, c'est parce qu'on le fait pour la gauche, puis on pense que la droite le fait. Mais je suis pas convaincu parce que effectivement, je trouve que l'exemple était très frappant en voir les panélistes qui se challengeaient entre eux carrément. Puis
c'est sûr que dans le fond, si on voudrait dire le contrôle qu'on exerce sur l'événement, c'est le choix éditorial de qui se présente.
C'est ça.
Comme je te disais, nous autres, là, le discours environnementaliste, c'était pas là-dessus qu'on voulait focusser. On l'entend en masse d'eau. On veut faire contrepoids un peu à ce qu'on entend dans les médias de masse. Donc, on a été plus vers un discours économique, un discours sur les droits de propriété. Mais ça, on a fait des choix en ce sens-là. On n'a pas invité Dominique Champagne, ben c'est parce que ça nous intéressait pas de l'entendre.
Mais avez-vous l'impression des fois que ça crée des frustrations? Mais est-ce que des gens qui... Non, mais sans dire, est-ce que des gens qui ont émis des commentaires envers le réseau Liberté en voulant dire « ben j'aurais dû faire partie des panélistes » ou « non, c'est jamais arrivé »
Non.
Parce qu'en au Québec, hein, puis on le sait, du côté de l'environnement, on nommera pas de nom, là, mais quand on recevait Rénal, il faisait souvent mention de quelqu'un, parce qu'au Québec, quand on adresse une question, des fois, on dit « ah non, mais tu sais, c'est... » Moi, je suis tanné de voir les Suzuki, là, puis tout ce beau monde-là, qui ont tout le temps le discours unique.
De toute façon, on entend ce discours-là. Nous autres, dans notre perspective, on n'avait pas besoin d'aller vers là.
C'est ça.
De toute façon, le discours est très accessible. Ouvrez Radio-Canada, puis vous allez avoir votre ami Guilbeault qui va vous expliquer comment ça marche.
Ben, c'est ça. Quelque part. Je voulais pas le mentionner, mais on fait souvent référence à Steven Guilbeault, tu sais.
Non, c'est ça. Le seul contrôle, comme je pourrais dire, c'est vraiment le choix éditorial des personnes. Mais la journée qu'on invite une personne, on veut vraiment pas y donner de cadre parce que nous autres, on se dit, elle nous rend service de venir. On le fait. Puis d'ailleurs, si t'avais les gens, il y en a qui restaient surpris de voir Christian Dufour à notre événement.
Oui, parce que ben c'est ça. Allons aux deux ateliers qu'il y a eu par la suite. Donc, il y avait Christian Dufour, auquel moi j'ai assisté. Puis,
moi aussi, mais je l'animais.
Ouais, tu l'animais. c'était très intéressant comme dynamique parce que ça l'a bougé beaucoup dans cet atelier-là. Parce qu'il y avait un sujet assez chaud.
Effectivement, Christian voulait nous parler de langue, de premièrement, langue. Et du multiculturalisme, également.
Il faut remettre les choses dans le contexte. Hein. C'est le week-end où le Parti québécois a voté.
En fait, Christian représente bien ce qu'on appelle les nationalistes de droite.
Oui, c'est ça.
Nous autres, au réseau Liberté Québec, on identifie trois grands courants, généralement, dans la droite. Les libertariens, les conservateurs fiscaux, et puis les nationalistes de droite. Des exemples, qu'est-ce que c'est chacun? Les libertariens, on va voir Éric Duhaime, on va voir Martin Mars. Ça, c'est des libertariens. Eux autres, le plus petit gouvernement possible. Les conservateurs fiscaux, moi, je m'identifie un peu comme ça. Joanne Marcotte aussi. C'est plus des gens qui vont chercher à avoir une gestion de l'État qui est saine. Et puis, évidemment, diminuer le rôle de l'État, mais on est conscient qu'il y a un certain rôle à jouer dans l'État, mais qu'il faut qu'il soit minimal. Ça s'approche quand même un peu du libertarianisme. C'est peut-être juste un peu moins fort. Ce qu'on va appeler le centre-droit va se retrouver là en général. Et puis, tu vas avoir aussi les nationalistes de droite. Cette clientèle-là, on a de la misère à l'attirer, le réseau Liberté Québec. On s'en cache pas, on attire beaucoup de fédéralistes, on attire beaucoup d'autonomistes. On a de la misère à attirer plus des gens très nationalistes qui vont passer les questions identitaires en premier.
Est-ce que c'est parce qu'au Québec, selon toi, on s'est approprié le nationalisme du côté de la gauche?
C'est sûr que ça joue un certain rôle. À quelque part, les gros organes nationalistes au Québec sont de gauche.
C'est ça.
Donc, les quelques exceptions nationalistes de droite qui sont un peu en satellite autour de ça sont quand même très bien affiliés avec ces organismes de gauche-là. On a de la misère un peu à les attirer avec nous. Puis en même temps, ben on a aussi de la misère à peut-être un peu à attirer une clientèle vers ça. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est réussir à faire des pas pour comprendre cette clientèle-là pour l'amener aussi. Okay. On a essayé certains invités. C'était pas le premier nationaliste qu'on voulait inviter. On a eu beaucoup de refus de ce côté-là, des gens qu'on a essayé d'attirer à notre événement.
Ben, c'est ça, tantôt, tu en parlais, là.
Ils veulent pas être associés avec le réseau.
Sans nommer les noms, c'est ça, on peut pas nécessairement mettre ces gens-là sur la sellette, mais c'est sûr que ça serait intéressant d'avoir un moment donné ce discours-là.
Mais Christian, lui, a accepté. Donc, Christian a accepté. Nous autres, on était très contents. Et puis, lui, au début, il comprenait pas pourquoi qu'on l'invitait. Puis là, il dit, ben, vous êtes courageux. Lui, ce qu'il nous disait, c'est, vous êtes vraiment courageux de m'inviter. Puis, si j'y vais, là, j'ai mes conditions. On dit, c'est quoi tes conditions? Ben, je vais contrôler ce que je vais dire. Puis, je vais contrôler mon communiqué de presse. Puis, c'est moi qui vais expliquer ce que je veux faire. On a dit, ben oui, pas de problème. Là, il a dit, OK, c'est bon, j'ai pleine liberté. Ouais, pas de problème. C'est bon. Il dit, je vais parler des sujets qui m'intéressent. Fait qu'il voulait parler de multiculturalisme, il a parlé de langue. Ça a été très intéressant, parce que c'est la droite identitaire. On pensait qu'on la rejoignait mal, Réseau Liberté Québec, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient très intéressés par ces aspects-là, qui étaient contents qu'on parle de ça, qu'on parle de langue aussi.
Puis c'était très actif là en termes de malheureusement et là c'est le choix qu'on doit faire assez souvent en milieu de journée quel atelier on va puis je savais que très bien Danny était vendu à Nathalie
pour des du monde.
Pour plusieurs raisons qui sont pas toujours nécessairement liées au discours mais donc moi j'ai fait le choix mais j'étais quand même surpris de voir justement le ça a suscité beaucoup d'intérêt puis t'as eu de la misère même à m'emmener à fermer l'atelier parce que
les gens avaient continué pendant une heure poser des questions. Christian il a très bien animé son atelier, ça a vraiment bien été et puis son discours était très simple. Lui ce qu'il disait c'est regardez, vous aimez la liberté de choix parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup au Réseau Liberté Québec, la liberté de choix. Mais il dit sur la langue, il dit faut quand même le protéger, faut que vous fassiez attention avec ça. Et puis dans un sens, il revenait beaucoup l'exemple, c'était sur l'anglais obligatoire en sixième année, une moitié d'année, c'est quelque chose que le gouvernement Charest va implanter. Et puis il a utilisé un peu notre argumentation pour montrer que regardez cette loi-là, c'est pas bon. Ce qu'il disait, c'était que vous pouvez pas implanter ça partout dans la province, obligé par le ministère de l'Éducation. En espérant que vous allez protéger le français comme ça. D'un, vous n'envoyez pas un bon message, puis de deux, c'est peut-être pas nécessaire partout. Mm. Par exemple, à Gatineau, à Montréal, c'est des régions qui vont avoir... Moi, j'ai des amis à Montréal, ils sont presque bilingues ou ils sont bilingues beaucoup plus facilement que moi. Moi, je vis en région, j'ai pas d'occasion de parler en anglais. Eux autres, ils en ont plusieurs. Fait qu'il dit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de l'imposer plutôt que de peut-être... laisser le libre choix aux écoles d'implanter tel programme. Donc, ça a été beaucoup l'aspect de la langue. Selon lui, on a des choses à améliorer de ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a en partie raison, en partie tort, mais c'était un dialogue qui a été implanté. Ce côté multiculturalisme, l'aspect identitaire de la chose, lui, il a dit, on était quand même assez sacoche là-dessus. Il dit que... des accommodements raisonnables, les entreprises n'ont pas d'affaires à en accorder pour des raisons.
Oui, puis à quelque part, c'était empreint d'émotion, hein, je pense, son discours. Puis, je le sentais émotif.
Ouais, mais c'est comme ça. C'est un vrai nationaliste. Un nationaliste, c'est bien d'énergie, c'est fier. Puis je pense qu'il a bien joué son rôle. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré cet atelier-là. Il y a eu vraiment des bons échanges. Et aussi, ce que je dirais, c'est qu'on avait présenté un sondage cette journée-là aux gens. Un sondage qui avait été réalisé à l'interne, plus de 520 réponses, si je me rappelle bien. Et puis, il y avait des aspects sur le multiculturalisme, sur la langue. Et puis, Christian a utilisé les réponses à ce sondage-là pour monter sa conférence. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait de sa part. Je pense que ça a été vraiment intéressant. Et puis, comme je te disais, c'était plus un débat que d'autres choses. L'atelier de Nathalie, moi, j'y ai pas assisté. Parce que j'animais l'atelier de Christian. On a eu des bons commentaires, évidemment. Les gens l'adorent. Je pense Nathalie Grabli, je veux dire. À quelque part, je pense que si on a fait peut-être une erreur dans la journée, c'est de la mettre en atelier. On aurait dû la laisser à toute la salle parce que les gens l'adorent, cette femme-là.
Ben, en tout cas, je sais que toi, Danny, tu avais eu des bons commentaires aussi.
C'est sûr. Ben, ça parlait dans le fond, du vocabulaire gauche-droite, là. Donc, c'était bien fait, puis même que, je sais pas si elle a rendu disponible son PowerPoint, là, mais il était vraiment bien fait.
Là. Ah, on pourrait demander, par contre.
Ça serait très bien, parce que ça aiderait probablement bien du monde. Puis, c'est drôle, parce qu'elle a vraiment, elle s'est vraiment collée à l'actualité, là. Elle a cité, entre autres, Mme Payet et ses contradictions. Donc, elle avait vraiment, était vraiment collée sur l'actualité de ce côté-là. Mais très intéressant. Moi, je pense que pédagogiquement, là, de rendre ça disponible pour les gens, là, peut-être que si elle voulait, là, ce serait une très bonne idée.
Ben, je pense qu'on va lui demander. On n'a pas fait de démarche vers elle pour ça. Mais je pense que ça coûte rien d'essayer. On verra qu'est-ce qu'elle
c'est
dit.
Ça. C'est un PowerPoint. Puis, tu vois, moi, le commentaire que j'ai fait à mon ami qui était avec moi, j'ai dit, tu vois qu'elle est professeure. C'était vraiment bien fait. Là. Donc, moi, je donne des cours présentement. Là. C'est un modèle à suivre.
Ouais, moi, je pense qu'elle enseigne au HEC depuis 90.
Exact. Ouais. Je pense qu'elle a donné des cours aussi à l'UQAM. Là. Tu vois qu'elle a le sens de la pédagogie. Puis, tu vois, là, son montage vidéo, c'était simple, mais parfait. Là. Ça disait ce que ça avait à dire. Donc, puis ceux-là qui sont vraiment pas habitués au vocabulaire gauche-droite, là, c'est un must. Là. Donc, il y en a peut-être à l'écoute qui sont moins familiers. Là. Go, si vous réussissez à lui la convaincre, là, ce serait une très bonne idée.
Au pire, éventuellement, il y a sa présentation qui est sur Radio Ego.
Oui, c'est ça. Ben, ouais. Les extraits sonores, d'ailleurs, c'est une amélioration aussi par rapport à la premier événement qu'il y a eu ici à Québec. Donc là, il y a les enregistrements qui sont disponibles sur le site Radio Ego, donc radioego.com.
Oui, puis ils l'ont mis sur la page d'accueil. Il y a un lien carrément sur la page d'accueil pour aller sur les liens.
Ça inclut-tu les ceux de l'événement précédent aussi, cette section-là? Ah,
je pense pas.
Non, je
pense
pas. Ça serait peut-être une bonne idée aussi. Comme nous, on a une page connaître, là.
Ouais, c'est ça.
Toutes les entrevues qu'on a faites depuis le début de la saison, là, à quelques exceptions près qu'on va régler bientôt, là, elles sont toutes là donc.
Effectivement. Justement, le fait de rendre disponibles ces audios-là, est-ce que ça l'a, pour vous, suscité peut-être, je vais pas dire le mécontentement, mais est-ce que vous avez eu des répercussions, là? Est-ce que la gauche s'est appropriée le discours, puis l'a distorsionné, puis en a fait
une sorte
d'interprétation?
Ça c'est sûr. Mais, je veux dire, on peut-tu vraiment empêcher ça? Je veux dire,
non, c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là...
Il nous considère comme une énorme menace, mais en tant que tel, tout ce qu'on fait, c'est jouer notre rôle dans une démocratie. Toutes les démocraties dans le monde, il y a un aspect de la gauche, il y a un aspect de la droite, les deux côtés s'organisent.
Mais on s'entend que c'est empreinte de transparence parce que on n'a pas toutes les audios justement des congrès qui sont menés par la gauche là, puis des rassemblements syndicaux. C'est rare qu'on a les audios de ça là. Tu sais, on s'entend. Ça,
nous, on était très ouverts à le faire. De toute façon, ce qu'on pensait, c'est qu'il y aurait probablement des gens dans la salle qui essaieraient de l'enregistrer pour éventuellement le passer. Ouais. Donc, on se regardait là, tant qu'à empêcher ça. Ouais. Disons, c'est sûr qu'on veut pas rendre les vidéos disponibles parce que le but du réseau, c'est vraiment que les gens se déplacent. Ouais, les gens viennent nous voir. On a peut-être une crainte, c'est peut-être non fondée, mais on a une crainte. Je pense que si on mettrait les vidéos disponibles, il y a peut-être des gens qui viendraient pas à l'événement. Ils choisiraient de le voir en différé. C'est pour ça qu'on met pas les vidéos en ligne. Mais les audios sont là, donc vous pouvez avoir l'essentiel de la journée quand même si vous avez pas pu y assister.
On n'aura pas le choix, on va toujours aller vers la télé payante. Faire un événement, un pay-per-view.
La gauche a des moyens financiers énormes. Ils vont le payer, le pay-per-view.
Ouais, mais c'est pas grave. Si ça peut les éduquer. Mais sérieusement, c'est empreint de. En tout cas, je pense que toute la journée, c'est un feu roulant d'action. C'est très consistant comme matière.
C'est
comme
intense.
Tu dis, tout le monde, il peut trouver son comble.
Même, je te dirais que ce qu'on observe là présentement. Par rapport au premier événement, on a eu de la difficulté à rentrer le monde dans les salles.
Ouais.
Les gens ont appris à se connaître. Là. C'était le deuxième événement, là, ils commencent à avoir des liens qui se créent, tout ça. Les gens, ils veulent jaser. Je pense que quand on va en refaire un autre, peut-être pas à l'automne, peut-être au printemps prochain, quand on va faire un autre événement, les gens vont avoir plus de temps pour se réseauter. Je pense qu'on va faire une journée un petit peu moins compacte parce que les gens...
On salue Joanne qui faisait un très bon travail dans les corridors. Allez, on rentre. Là,
les gens voulaient rien savoir.
Comme
le
professeur. Non, la cloche a sonné, là, vous rentrez.
Mais en même temps, quand c'est commencé, les gens restent dans les salles. Les conférences sont tellement intéressantes que les gens sont là, puis on a une belle participation du public. Les périodes de questions, on est toujours obligé de couper ça court parce que il y a des fils de gens qui veulent poser des questions, puis à un moment donné, faut passer à autre chose, mais les gens sont vraiment intéressés.
Et là, la grosse question, est-ce qu'il y a un événement, une suite événementielle? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler? Puis je sais que vous venez de sortir de l'événement, là, mais la question était sur toutes les lèvres parce que les gens apprécient en fin de compte. Hein, on devient un peu névrosé, mais addict là, de ça. Puis
On n'a pas, c'est sûr, on n'a pas pris nos décisions finales, mais je pense pas qu'on va se diriger vers un événement à l'automne. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est construire le réseau, mais plus localement.
À travers les sections locales?
Au travers des sections locales, peut-être avec des dîners-conférences, des choses comme ça. Parce que là, on a une bonne base, on a des courriels, on a des Facebook, on a des Twitter. Et puis, on est capable de rejoindre notre public cible. On n'est plus vraiment obligé de passer par les médias. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est construire cette base-là. Les événements, c'est super le fun, mais d'un autre côté, ça a une limite en termes de développement, puis surtout, ça gruge beaucoup de temps.
Puis, tu fais bien de le répéter, ça, parce que vous autres, vous faites ça de façon bénévole là, puis c'est pas votre job à temps plein, puis vous n'avez pas des cotisations syndicales, justement, pour renflouer les coffres, là.
Non, effectivement, je te dirais que côté monétaire, ça va très bien quand même, Réseau Liberté Québec. On n'est pas... Premièrement, on n'est pas dépensier. On n'a pas de salaire à payer. On gère ça quand même très serré. Donc, on réussit à conserver un coussin.
Okay.
Parce qu'il n'y a quand même pas de crédit d'impôt accordé. Si vous faites des dons, il n'y a pas de subvention non plus. Mais ça reste qu'on gère ça quand même vraiment serré parce que justement, on veut que le réseau perdure. Donc, pour ça, il faut faire vraiment attention. Je pense que de ce côté-là, on n'est pas énergivore en termes d'argent. C'est sûr que les dons que les gens nous envoient, des fois, c'est surprenant. Je veux dire, il y a des gens que tu connais pas, tu reçois des dons par la malle, un petit 50, un petit 100. Des fois, c'est 10 piastres. Puis, nous autres, ça nous aide beaucoup quand que les gens font ça. Mais en même temps, on est très respectueux de ça. Je veux dire, notre site Internet, il nous coûte pratiquement rien. Tout ce qu'on fait, c'est le plus faible coût possible. Et puis, de ce côté-là, ça va bien. Ce qui nous manque... Peut-être c'est plus de bénévoles, ainsi de suite, pour organiser des gros événements. C'est peut-être pour ça qu'on veut faire des choses plus petites. Les choses plus petites, tu as moins besoin de planifier ça longtemps d'avance. Mmh. Tu peux en faire plus. Tu peux aussi, évidemment, avoir moins de ressources qui vont s'appliquer là-dessus. Nous autres, un événement comme c'est là, comme on a fait la dernière fois, c'est sur une période de 3-4 mois que ça se prépare. Et puis, c'est plusieurs réunions à 6-7 personnes. Ça demande beaucoup d'efforts.
Ouais,
on va en refaire. C'est sûr qu'on en refait. Mais de toute façon, je pense qu'avoir une fréquence comme ça à tous les 6 mois, là, éventuellement, on aurait pu conférencier à présenter. Je veux dire, ça irait trop vite. Là. Il faut qu'on prenne le temps de construire notre réseau. Et puis, à la limite, si on prend le temps de bien le construire localement, je pense qu'on va pouvoir peut-être se permettre un événement qui va être plus gros par après, attirer plus de monde. On va peut-être pouvoir être audacieux, viser un 700-800 personnes plutôt qu'un 450. Donc, vraiment, construire le réseau à sa base. On a 850 membres présentement. C'est quand même très bien. On remercie d'ailleurs tous les gens qui veulent devenir participants actifs au réseau. Nous, c'est une source de financement, puis c'est aussi une source de courriel, de pouvoir communiquer avec les gens. Et puis, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment niveau local, puis, développer.
Tu parles justement de l'avenir d'un point de vue événement, puis que vous allez vous concentrer. Est-ce que vous avez fait un plan de match? Est-ce que vous avez revu un peu le positionnement du réseau? Parce que là, ça fait quelques mois maintenant là que vous êtes en marche. Est-ce que vous avez construit ou revu le plan d'affaires? C'est quoi la suite là? Parce que les gens se posent beaucoup la question là. Oui, il y a le côté des événements, mais il y a le côté aussi du réseau en lui-même là. Est-ce que vous êtes en train de redéfinir ça?
Non, je pense que ça va bien. On l'a dit, on veut pas devenir un parti politique. On l'aime comme c'est là. On a bâti le réseau autour de deux valeurs, responsabilité et liberté individuelle. Je pense que ça va bien. On veut pas prendre position au nom des gens parce qu'on pense que c'est pas notre rôle de le faire. Nous, c'est de mettre de l'avant des idées, de créer des forums pour que les gens puissent s'exprimer. Puis ça va très, très bien. On prend notre page Facebook qui est très visitée. C'est au-dessus d'un million de clics par mois, je pense, si je me trompe pas. Donc, tu sais, on a construit des outils. On va continuer à développer ces outils-là.
Donc, c'est vraiment l'aspect réseau qui va demeurer là à l'avant-plan puis qui va être le plan directeur, en fait, des prochains mois.
Des sections locales aussi.
Des sections locales. Donc, de construire ce réseau-là, puis à travers du réseau, d'organiser des événements, puis de livrer un message, en fait, à cette clientèle-là qui en devenant membre, officialise aussi, formalise leur adhésion au réseau. C'est la façon de le faire, c'est de devenir membre.
Effectivement.
Comme ça, on est formellement membre du réseau. Et justement, quand on devient membre, parce que j'ai vu que, bon, il y a des réductions quand on a les événements comme ça, c'est quoi vous voulez faire avec le membership? Parce que ça, c'est une autre question que j'ai eue. Les gens disent, parce que je sais que vous avez fait un des sondages qui était exclusif à vos membres. C'est quoi vous voulez justement faire avec ce membership?
Ça a été le premier aspect. Je veux dire, pour pouvoir avoir le droit de répondre au sondage, donc pour pouvoir exprimer son opinion, il fallait être membre. il y a une cotisation de 20$ liée au membership. Et ce que ça nous permet de faire, c'est justement d'aller chercher vraiment les gens intéressés, ceux qui sont très intéressés par le réseau Liberté Québec. Donc, on est sûr que notre sondage, là, il est valable. Quand on dit que le sondage représente l'opinion des gens du réseau Liberté Québec à tel pourcentage, c'est très valable. Je veux dire, on fait affaire juste avec nos membres. Et puis ça, je pense que c'est quand même un privilège pour les membres de répondre à ce sondage-là, parce que les 520 personnes qui ont répondu au sondage, ça augmente le niveau de crédibilité. Et puis les chiffres qui sont là-dedans sont importants. Nous autres, là, le sondage, là, on l'a transmis à l'Action démocratique du Québec en disant, regardez, là, si vous voulez intéresser du monde de droite, là, c'est ça que vous faites ici. Okay. On va le transmettre aux partis conservateurs aussi. On veut influencer les partis politiques avec ça. On va en parler. Tout le monde, Éric, moi, Joanne, on fait des entrevues radio d'un bord puis de l'autre. On sert des chiffres de ce sondage-là quand on parle aux gens. Et puis ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Puis aussi, ce sondage-là, il est sur notre site Internet. Si les gens veulent aller voir les résultats, là, ils ont juste à aller sur le site libertéquebec.ca et puis ils vont avoir tous les résultats sur le sondage.
Avez-vous des objectifs par rapport à ce membership-là? C'est-tu d'atteindre des plateaux particuliers? Ou?
Non, je pense qu'on prend ça comme ça vient. Nous, ce qu'on veut, c'est le développer. 850 membres, c'est au-delà de nos attentes. On pensait pas vraiment se rendre là. C'est presque 1000 là, en l'espace de quelques mois. Et puis là, c'est vraiment de continuer de grossir ça. Nous, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est d'offrir des plateformes aux gens. Donc, s'il y en a 2000, s'il y en a 3000, s'il y en a 1500, c'est pas si important que ça. Nous autres, ce qu'on veut...
Mais en même temps, ça va donner un poids quand même au réseau, là, parce que plus que le membership augmente, là, on parle plus de personnes là, qui sont dans leur coin, puis là, on commence à sortir du garde-robe, puis pas à peu près. Là.
Oui, puis c'est des gens... Les gens, quand ils font leur contribution au réseau, sont fiers de le faire. Ils embarquent dans le wagon avec nous autres, sont vraiment intéressés. Comme je te dis, pour donner 20$ comme ça un OSBL comme nous autres, c'est parce que tu as un intérêt. Tu peux juste avoir un intérêt. Puis
c'est bien parce que nous, à l'époque, on avait pensé, dans le cas où on constituerait un OBNL avec Connaître la suite, justement, on s'est dit, il faut mettre un membership parce que c'est l'acte de foi que tu fais, justement, puis l'engagement, aussi minime elle peut être, c'est quand même une forme là, de confirmer aussi son adhésion, puis comme tu dis, ça donne un poids là.
Ouais, puis on va essayer de communiquer aussi avec ces membres-là, leur envoyer de l'information. Là, c'est sûr qu'on est plus en mode, on redescend, on n'a pas fait un post-mortem encore notre événement, mais c'est vraiment d'essayer de communiquer avec ces gens-là. Puis aussi, on faire du recrutement, avoir des gens autour de nous. On va avoir, comme je te dis, les prochains événements qui vont être plus locaux, mais quand on va aller. Moi, j'ai tous les codes postaux des gens qui sont qui sont membres du réseau. Mm-hmm. Quand on va aller faire un événement à Drummondville, ben on va envoyer un courriel aux gens de Drummondville, dire regardez, on est dans votre coin. Puis...
Justement, les sections locales, comment est-ce qu'ils s'articulent autour du réseau et de ce membership-là? Comment ça fonctionne?
Là? Ben, on a une philosophie pour les sections locales de vraiment laisser... Que ce soit autonome, premièrement, c'est vraiment là, quand il y a une section locale qui se crée, c'est pas le national qui la crée. C'est vraiment là, ça se crée tout seul. Il faut qu'ils nous envoient les numéros de membres de 10 personnes. Donc, c'est quand même. Il y a un petit triage qui se fait là. C'est pas n'importe qui peut monter une section locale. Ça prend quelqu'un qui a de l'influence. On a un gars au cégep de Saint-Jérôme, hyper militant. Il a organisé lui-même un débat entre Éric Duhem et François Saillant. Il a mis 200 personnes dans la salle.
Wow.
Puis il est rentré du membership. Le gars, là, il est craqué.
Ah ouais.
Il nous a rentré du membership, puis on lui a donné sa section locale, puis on dit go, t'as ta section locale, puis il va organiser des petits événements. Fait qu'il va,
Et ces gens-là, faut les avoir au sein du réseau, parce que
craqués
comme ça, comme tu dis, il faut.
Mais c'est la base. Puis quand on a pensé au concept des sections locales, on n'a pas dit OK, ça n'en prend une à Montréal, ça n'en prend une. Non, c'est vraiment tu veux en monter une, monte-la. Des limites de ton territoire géographique pour ce que tes capacités, qu'est-ce que tu veux faire. Et puis, nous autres, on t'appuie. Je veux dire, t'as besoin de notre aide pour quelque chose. Ton projet, il y a de l'allure, ben on va t'aider, puis on va le faire. Moi, je suis allé récemment au Lac-Saint-Jean voir Pascal Tremblay, qui est notre responsable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il avait organisé un 5 à 7. Il m'a demandé, tu peux te souvenir? J'aimerais ça pour attirer des gens. Je suis arrivé là, il y avait 15 personnes. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis, il y en a 4 personnes la soirée même qui se sont abonnées.
Et ceux qui nous écoutent, justement, qui qui sont très intéressés, ils peuvent donc soumettre et aller sur votre page web puis voir comment on concrétise justement une section locale, parce que là, ça pousse. Il y en a combien formellement là, de sections locales?
On en a cinq. On en a une de le Grand Montréal.
Grand Montréal, oui, qui a lancé justement lors de l'événement là en grande pompe. Là.
C'est ça. Le Grand Montréal nous parle de l'organisation d'un colloque peut-être à l'automne sur l'éducation. Donc, s'ils vont de l'avant, évidemment, ils vont avoir l'appui du réseau. On va les aider là-dedans. Il y en a une sur la Montérégie, une activité qu'ils ont organisée, ils ont demandé à Joanne Marcotte de venir présenter l'illusion tranquille à une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Donc, une petite activité comme ça. On a la section Québec qui se crée présentement. Leur première réunion va avoir lieu mercredi prochain au KC, s'il y en a que ça intéresse. Et puis, après ça, il y a Jacques-Philippe Fort, que je te parlais au Cégep de Saint-Jérôme, qui est en train de mettre des choses de l'avant. Déjà organisé un premier débat avec Éric Duhem, François Saillant du Frappru. Et puis Pascal Tremblay au Lac-Saint-Jean, que ça va très bien,
lui aussi, ses affaires. Puis comment vous vous sentez justement le fait qu'aujourd'hui, parce que là c'est comme des enfants là, qui naissent, là, j'imagine vous éprouvez une certaine fierté de voir ça, là, parce que déjà vous, ça vous a demandé beaucoup d'efforts de constituer le réseau, puis là de voir qu'il y a des gens qui prennent le relais comme ça, puis qui s'implantent. Ouais, puis
ça va être des antennes aussi pour nous localement, ils vont pouvoir organiser des activités locales. Nous autres, on va les aider. Eric, comme je dis, s'est déplacé. À vrai dire, on s'est tous déplacés pour une activité à quelque part là, pour les sections locales. Puis c'est ça le but. Si ces sections-là locales sont dynamiques, nous, ça nous enlève un gros poids sur les épaules. On est 7, 8, 9 personnes à peu près, là, qui est Réseau Liberté Québec, qui travaille vraiment là, constamment là-dessus. Ces sections locales-là vont devenir indispensables dans très peu de temps.
Il peut-il avoir, avec Dr. Roy qui est avec vous, pensez-vous avoir une section locale plus Montréal-anglais ou y'a-t-il de ce côté-là?
J'ai pas vu de choses qui allaient dans ce sens-là à date. Peut-être, éventuellement. C'est sûr que Roy, il donne tellement de temps au national, je pense pas qu'il va avoir de temps de créer une section locale. Ouais. Mais ça pourrait naître.
C'est une crowd à aller chercher. T'sais. Ça a toujours été une crowd on dirait qu'ils n'ont jamais entendu parler de la DQ à l'époque. Là.
Effectivement.
Donc c'est une crowd à aller chercher. Ça existe, un parti de centre-droit.
Il y a plusieurs personnes sur l'ouest de l'île de Montréal qui ne veulent rien savoir de la DQ. Ils pensent qu'on est en consouverainiste. Mm-hmm. Je veux dire, à quelque part, il y a des liens à créer aussi avec les organes médiatiques anglophones de ce côté-là, avec des gazettes, avec...
Global après, Montréal.
Exact. Je pense qu'il y a un animateur de radio, Tommy Schnumacher, CGAD, là-bas, il nous aime bien. On a une relation avec lui. Roy est passé quelques fois à son émission. Donc, c'est des relations importantes à créer, justement. Puis même la DQ, je pense, font du recrutement pas mal dans l'ouest de l'île de Montréal présentement. Fait qu'eux autres aussi s'attardent à cette clientèle-là. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est une clientèle qui veut pas. Leur seul choix politique, c'est le Parti libéral du Québec. Pas équipé de choix, là.
Non, définitivement. Puis à travers le réseau, je pense que, comme tu disais tantôt d'entrée de jeu là, avec l'Alberta, on a de grandes similitudes là, avec ceux qui habitent l'île de Montréal, là, que ce soit dans l'ouest ou dans l'est. Là, je pense qu'ils vivent les mêmes difficultés, puis ils ont les mêmes réflexions à l'heure actuelle. Et je pense que c'est bien parti, en tout cas. Moi, je regarde ça, là, puis c'est en quelques mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à l'émission, on s'est dit, écoute, c'est quand même phénoménal. Là, t'sais, avec recul, là, quand tu regardes ça, c'est tout ce qui a été fait dans ces quelques semaines de travail-là. Puis je dis quelques semaines de travail, mais pour vous autres, c'est une énergie incroyable. Là, mais c'est très court là, comme laps de temps, puis d'arriver aujourd'hui avec quelque chose qui est aussi solide, j'imagine que vous êtes aussi fiers de ça.
Oui, on est impressionné. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les valeurs qu'on essaie de mettre de l'avant pour la société québécoise, liberté individuelle, responsabilité individuelle, ben on les applique aussi à l'organisation de notre réseau. Les gens, là, les organisateurs du réseau sont très libres. Les décisions, je sais pas, vous avez remarqué, on n'a pas de président.
Non.
On n'a pas personne qui est en haut
de personne. Souvent, les gens disent, c'est qui, justement? Puis vous êtes plusieurs, comme tu as mentionné, derrière ça. Puis on sent pas nécessairement, effectivement, qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre.
Non, puis on n'a pas de grands financiers cachés en arrière de nous autres qui nous disent comment fonctionner. On est très, très libre, puis en même temps, on est très responsable. Je veux dire, on fait tout notre travail à quelque part. Chacun des éléments du réseau de Québec livre la marchandise. Ça donne une réussite sur le terrain. Et puis, ça, on l'applique beaucoup. Puis en même temps, les sections locales, on leur donne beaucoup de liberté. On dit, vous êtes 100% autonome, mais en même temps, vous avez la liberté d'agir, puis vous avez notre support. Mais ça, nous autres, on pense que ça va être payant parce que il va peut-être avoir des échecs. Il va peut-être avoir des sections locales, ça va moins bien aller. Mais grosso modo, en bout de ligne, il va avoir des succès. On a déjà vécu des succès. Moi, je considère le Cégep de Saint-Jérôme, c'est un succès. La section Montréal du Grand Montréal, c'est un succès aussi. Donc, je pense que le Pascal, ça va bien son affaire au Lac-Saint-Jean. Donc, miser vraiment sur l'autonomie des gens, là, on voit que ça fonctionne à l'intérieur du réseau. Pourquoi ça fonctionnerait pas pour le Québec aussi? Là?
Effectivement. On va, en tout cas, on va vous souhaiter longue vie au réseau, puis on va souhaiter surtout à nos auditeurs de consulter votre site Internet. Ça, je pense, c'est la porte d'entrée principale. Puis là-dessus, ça mène sur, comme tu dis, vous êtes impliqué au niveau des réseaux sociaux. Puis je sais pas où tu trouves le temps parce que je te vois tweeter, je te vois beaucoup poster aussi sur Facebook.
Je pense que la base de quelqu'un qui voudrait juste commencer à s'initier au réseau, ouais, c'est vraiment de s'abonner à notre page Facebook. Ouais. C'est vraiment le meilleur moyen, c'est super simple d'accès, puis on met beaucoup d'informations là, puis les lectures que vous allez faire en suivant cette page-là, vous allez voir, c'est intéressant. À la base, là, les idées, là, liberté, responsabilité individuelle, vous allez voir ça chaque jour là-dessus. Hein.
Puis on invite les gens, comme j'ai dit, à consulter le site Radio Ego s'ils veulent avoir là spécifiquement les extraits de tout ce qu'on vous a parlé par rapport à l'événement, parce que c'est un discours que vous devez entendre. Écoutez, vous avez le privilège d'avoir accès à ces audios-là qui sont gracieusement offert par les gens qui sont derrière le réseau Liberté Québec, ben profitez de l'occasion pour justement les consommer, parce que c'est un discours qui est des fois très rafraîchissant, qu'on n'entend pas dans les médias de masse, puis je pense que tu as très bien exprimé tantôt justement votre volonté de faire ressortir ce qu'on n'entend pas dans les médias de masse, parce que au Québec, on le sait, et malheureusement, on n'a pas encore de Sun News au Québec incessamment, j'espère qu'on aura le pendant francophone.
Quand on y pense, si on démontre qu'il y a une crowd, si on démontre qu'il y a un public qui est prêt à entendre ce discours-là, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, Pierre-Carl Péladeau, dernière nouvelle, il était là pour faire de l'argent. Mais si vous voyez que Sun News marche au Canada anglais puis qu'il y a une crowd qui se développe
mais
au Québec.
Cette semaine, on s'est dépêché à décrier les codes d'écoute là, parce que bon, on a sorti comme des chiffres. Là. Je sais pas où les gens ont trouvé ces chiffres-là, parce qu'ils ont parlé d'un sondage BBM, mais
ouais, j'ai vu ça se passer. Je pense qu'ils parlaient d'un 50 000, je pense.
C'est 40 000. C'est comme quand les sondages sont sur Star Academy, là, c'est comme des pagers que le monde.
Ouais, mais tu sais, je trouve que c'est assez rapide, puis en tout cas, mais il y en a qui se sont.
On les a le lendemain, les codes d'écoute.
Oui, c'est vrai, effectivement.
C'est pas un problème. Je veux que tu dissocies RLQ de ce que je vais vous dire, là, mais là, il y a une job de bras mémorable qui se fait à cause de Sun News présentement.
Présentement,
là? Ils ont sorti une histoire de Jack Layton, là, puis job de bras que j'aime pas pantoute, là, mais je l'ai dit pareil. Là. Jack Layton aurait été arrêté en 96 une place de massage.
Ah ouais.
Donc il a été retrouvé nu, il aurait été arrêté en 96 ou 18 et on recherche les rapports de police et ils sont inexistants. Bon. C'était dans il était à Toronto à l'époque, donc il y avait peut-être des liens avec la police de Toronto.
C'est sûr que news vont déranger, puis c'est, ouais, je pense, ouais, que c'est ce qu'il essaie de faire.
C'est pas mon genre d'histoire, mais en tout cas, ça roule au fond sur Twitter, là, c'est l'enfer.
On va faire une petite pause et on va aller à la pause sur la toune qui a ouvert l'événement. C'est toi qui as fait le choix, hein, je pense, Yann.
Ouais, mais avec les gens sur Twitter. J'ai sondé le monde, puis il y a quelqu'un qui a ressorti l'idée.
Ben, présente-nous-les donc.
C'est Muse Uprising, je pense.
Et je pense que le choix parle par soi-même, donc écoutez, et j'espère que vous allez être des prochains événements, et surtout, comme on a dit, venez vous inscrire sur le site et surtout vous abonner à la page Facebook. Donc, merci de ta visite, Yann, et on souhaite aussi de retrouver un équilibre familial dans tout ça. Parce que
je pense que j'ai pas le choix, là.
Tu lâches vraiment pas, et regarde, t'étais partout cette journée-là, puis t'es toujours partout par rapport aux activités du réseau. Fait que prends soin aussi de ta famille, parce que je sais que on l'a souligné, mais c'est vraiment important. T'es en jeune âge, mais faut pas trop abuser des bonnes choses aussi. Le Québec va demeurer ce qu'il est.
Encore un petit bout.
Ouais,
hein.
Encore un petit bout. Et ben je t'invite, si jamais tu veux rester de l'autre côté, on va débuter la chronique là, que je vous ai préparée il y a de cela 3-4 semaines sur justement l'État québécois, qu'on compare souvent des fois à tort et à travers avec l'État français. Donc, j'ai une étude qui nous provient de la France et vous allez voir, on va attaquer ça ensemble. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes du XM 172 et c'est l'émission « Connaître la suite ». Alors, on est de retour à l'émission Connaître la suite avec Steve et Danny. Ça va très bien. On est présentement en train de consulter toute la documentation que j'ai pour la prochaine chronique. En fait, le document que je vais faire référence, c'est le tableau de bord de l'emploi public. Ça a été publié en juin 2009. Je vais mettre le lien disponible sur un de nos tweets, ça c'est sûr, puis sur la page de Connaître la suite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments d'information et on veut rendre ça quand même radiophonique. Et on dit une image vaut mille mots. Je vais essayer de vous rendre ça la meilleure façon que je peux le faire. Et je sais que des fois, des chroniques comme ça, on veut pas non plus vous donner trop de chiffres, mais il y a beaucoup de chiffres que je veux quand même vous communiquer ce soir. Puis avant de commencer, en fin de compte, d'où est venu, d'où vient le document, en fait, c'est du Centre d'analyse stratégique. C'est un organisme en France qui est un peu comme l'Institut économique de Montréal, donc un organisme là qui produit des papiers assez sérieux, qui font des ouvrages là très intéressants. Puis c'est un organisme paraît gouvernemental, donc l'adresse c'est le stratégie.gouv.fr. Et le document, en fin de compte, date de juin 2009, comme j'ai dit précédemment, et on s'est intéressé aux facettes croissantes des finances publiques. Donc, on dit la question d'une éventuelle suradministration est souvent posée en France. Elle concerne les leviers d'action que doivent privilégier les pouvoirs publics. S'agit-il de peser sur les dépenses de fonctionnement ou bien sur les dépenses de transfert, sachant que le poids croissant des dépenses publiques est largement imputable à l'accroissement de ces dernières? Donc, notamment, on donne des exemples dans la santé et la vieillesse. Quand on regarde cette étude, la première chose qui nous frappe, c'est vraiment son contenu qui est assez important en termes de chiffres, en termes aussi de d'étendue. Parce que on a en fait regardé, je dirais, des pays qu'on connaît bien. On a regardé du côté, évidemment, des pays scandinaves. Donc, le Danemark est là-dedans, la Suède. On est allé du côté de la Belgique, des Royaumes-Unis, de l'Autriche, de l'Italie, de la Finlande, l'Espagne, la France et le Canada, en plus des Pays-Bas, de l'Allemagne. Donc, on a quand même, on a regardé, je dirais, un échantillon assez large. On s'est pas limité nécessairement à regarder uniquement ce qui se faisait en France. Donc, on a mis en opposition l'administration publique, parce qu'en France, on appelle ça vraiment l'administration publique, donc l'APU, c'est ça son acronyme. Et j'ai dû le chercher parce qu'on faisait souvent référence APU, APU, APU. Et là, merci à Internet, APU qui veut dire administration publique. Première chose qu'on fait, c'est qu'on compare les taux d'administration des administrations publiques sur une longue période. Donc on a recensé en 76, en 96 et 2006. Et là on y va par un chiffre qui est assez simple. Donc on y va avec le nombre d'emplois dans l'administration publique pour 1000 habitants. Donc on a un tableau et là on voit justement s'il y a eu une décroissance ou une croissance par rapport à 76, 86, 96 ou 2006. Et en plus on voit les niveaux à l'intérieur entre chaque pays. Et là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, en France, on parle d'une progression entre 76 et 86. On parle de quelque chose qui a, en 96 aussi, atteint son summum, mais qui a été redressé légèrement en 2006 avec une diminution des emplois dans la fonction publique. On oscille aux alentours du 90 employés dans la fonction publique pour 1000 habitants.
Okay.
Donc, retenez le chiffre 90, ça, c'est le chiffre 2006. Quand on compare au Canada, parce que souvent au Canada, on pense, et je dirais au Québec, que la France est vraiment le pays là où on trouve le plus de fonctions publiques. Mais quand on regarde au Canada, en fin de compte, on voit que c'est assez comparable quand on regarde 76-86, là, c'est flat. Petite diminution en 96, souvenez-vous, en 96, il y avait eu quand même quelques mises à pied dans la fonction publique, que ce soit au Québec ou au Canada. Mm-hmm. Et d'ailleurs, dans l'étude, là, on est allé fouiller, là, parce que à la fin, on rentre dans chacun des pays, puis on dit qu'est-ce qui s'est passé, en fait, justement, entre 76, 86, 96 et 2006. Mm-hmm. Mais par contre, retenez le chiffre, parce que là, il y a eu une progression. En 96, ça a diminué un peu au Canada, mais ça l'a remonté en 2006. Mais la moyenne est de 100. Donc, 100 employés dans la fonction publique par 1000 habitants. Okay. Contrairement à la France qui est à 90.
90.
Donc, l'écart est quand même de 10%. Donc, ceux qui pensent que la France est le modèle gauchiste parfait avec beaucoup de gens dans la fonction publique, il y en a aussi au Canada.
Ouais.
Donc, c'est signe que... Et là, est-ce qu'on peut l'attribuer à la gauche? On peut sûrement l'attribuer, par contre, à nos gouvernements.
Faudrait... Est-ce qu'ils n'ont sûrement pas isolé le Québec là-dedans?
Ils n'ont pas isolé le Québec.
Imagine, j'aimerais avoir le chiffre québécois. Là.
Et je l'avais, par contre, je l'ai pas avec moi. J'avais trouvé une petite, et je pense que j'avais trouvé ça sur Antagoniste, justement, où on avait le ratio pour le Québec versus le Canada. Mais ce qu'on sait, puis ce que je peux vous dire de mémoire, c'est que le Québec, si on compare à l'Ontario, c'est immense. Là. On parle de près de 30% de différence là, en termes d'emploi dans la fonction publique. Puis définitivement, au Québec, là, on est la province où il y en a le plus. Mais je peux pas vous donner les mêmes détails que je vais faire là à l'instant avec cette étude. Okay. Quand on regarde les contributions de l'emploi dans le secteur public par rapport au taux d'emploi, donc... Si on parle, là, on met tout le monde ensemble là, dans le même bain, puis on fait une comparaison par rapport à ceux qui travaillent dans la fonction publique et tout le reste, ben encore là, on voit que la France, on parle d'environ 15% des gens, donc qui sont des travailleurs qui travaillent dans l'administration publique. Et au Canada, même taux, donc à peu près 15% des gens. Donc, c'est quand même considérable, c'est-à-dire que 15 personnes sur 100 travaillent dans la fonction publique.
OK?
Je parle de fonction publique. Voulez-vous que je vous dise un peu qu'est-ce qu'on veut dire par fonction publique?
Mm-hmm.
En fin de compte, fonction publique, là, on parle d'organismes au niveau provincial, fédéral, local. On inclut là-dedans les municipalités. On inclut aussi tout ce qui est parapublic. OK? Donc, les agences, les gouvernances externes au gouvernement. Donc, quand on parle d'administration publique, on va vraiment brosser très large. Fait que les pompiers sont là-dedans, les policiers sont là-dedans. Donc, tout ce qui est les fonctions régaliennes. J'aime ce mot, hein, Danny, non, tu le sais. Depuis un mois, le mot régalien fait partie de mon quotidien.
De ton déjeuner.
De mon déjeuner. Chaque matin, je prends ma dose de fonctions régaliennes. Une bonne source de fibres.
4 onces de régalien dans une once de lait.
C'est ça. Mais, soit dit en passant, c'est ça. Donc, quand je parle de fonction publique, je vais aussi loin que ça. Okay. Si on continue dans l'étude, on parle justement des fonctions régaliennes. Si on s'en tient aux fonctions régaliennes, qui sont, Danny, je ne sais pas si tu veux les citer, si tu te souviens de mémoire.
Oui, ben c'était dans le fond avoir des relations avec les autres pays, donc armée et avoir des ambassades, la sécurité intérieure qui est la police. Il y avait la justice.
Oui.
Donc, avoir un bon système de justice. Donc, pour l'interne, mais aussi l'autre, c'était gérer la monnaie du pays.
C'est ça. Donc, les fonctions régaliennes, quand on les met par opposition, c'est là que là, il y a une grande différence. Okay. Les pays qui se démarquent, États-Unis, Belgique et France. Et là, c'est environ 35 % en France des fonctions à l'intérieur de la fonction publique qui sont liées aux fonctions régaliennes.
OK.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans... Puis les États-Unis sont premiers, essentiellement, c'est l'armée. Hein, vous savez que l'armée américaine est très importante. Donc, 35 % des travailleurs aux États-Unis dans la fonction publique sont pour les fonctions régaliennes. Donc, comme tu as dit, contrôle de la monnaie, la justice et évidemment l'armée. Donc, ça s'explique. Puis c'est ce qui est le fun, c'est ce qu'on nous fait ressortir dans l'étude. On nous met aussi le poids qu'a la fonction publique sur le produit intérieur brut. OK? Parce que on sait que les gouvernements, des fois, puis on l'a vu aux États-Unis, hein, puis même au Canada, dans des moments de crise, le gouvernement investit dans la fonction publique, hein, redresse les finances en grossissant l'appareil, crée des jobs artificiels. Et on voit que le Canada est quand même assez haut dans l'échiquier, et même la France. Mais on voit que le Danemark se démarque par rapport à ça. Et on pourrait peut-être inviter... Jonathan là-dessus, qui pourrait nous donner peut-être des explications. Mm-hmm. Mais on voit que le poids, justement, de la fonction publique à l'intérieur du PIB est très forte au Canada. Et là, si je vous donne des chiffres plus précisément, on parle de dépenses réelles de rémunération par habitant. Donc, en France, on parle d'environ 4 000 $ par habitant qui est dépensé pour la fonction publique.
Okay.
Versus au Canada, on est à environ 4 700 $ là, à peu près. Donc, on voit qu'on dépense à peu près le même niveau pour les fonctions régaliennes. Et ça, c'est de l'argent qu'on dépense. En fait, c'est qu'on crée un produit intérieur brut qui est basé essentiellement sur la fonction publique.
Mm-hmm.
Donc, si demain matin, on parle, et là, je le mets en opposition à certaines réflexions qui se font, je pense que la droite fait souvent cette réflexion-là, de couper dans les emplois dans la fonction publique, mais il faut comprendre qu'il y a un side effect à ça, c'est qu'on va atteindre directement le PIB. Hein. On sait que le PIB a reculé en février, mais si on coupe dans la fonction publique, en fait, c'est de l'argent. Puis quand les gens le disent, j'ai les chiffres qui le prouvent. Là. Je veux pas donner nécessairement systématiquement raison aux gens, mais le gouvernement est un créateur d'argent qui circule. Certains diront que c'est de l'argent justement qui est virtuel là, parce qu'on surfabrique des fonctionnaires, mais c'est de l'argent qu'on va retirer hein, du produit intérieur brut. Je le dis comme ça à titre de réflexion. C'est bien d'y penser. Quand on regarde aussi plus loin dans l'étude, quand on compare les diverses fonctions. Donc, je parlais d'un fort pourcentage du produit intérieur brut qui est lié justement aux rémunérations dans le domaine de la fonction publique. Mais on voit qu'au Québec, au Canada, on investit beaucoup, et là, je vous surprendrai pas en vous disant ça, par rapport à l'éducation et la santé. Hein, on voit que sur le graphe, là, et là, je le montre ici aux gens en studio, mais on voit un petit graphe avec les couleurs. Fait qu'on voit que tout ce qui est éducation, et santé, bien, on le sait au Québec, c'est environ presque la totalité de nos budgets qui passent sur ces deux fonctions de l'État-là. Puis si on regarde les autres pays, ben là, on voit que il y a une proportion qui est différente. Donc, en France, c'est beaucoup plus dans l'enseignement que dans la santé. Puis après ça, ben quand on regarde des pays comme le Danemark, la Suède, ben c'est à peu près égal au Canada. Puis il y a des pays, si je regarde la Belgique, là, au niveau de l'enseignement, c'est presque totalement. Et puis dans la fonction, pour ce qui est de la santé, c'est presque absent. Il faut comprendre qu'il y a des milieux où ce que le système privé est là. Hein? Mm-hmm. Et les États-Unis, ben c'est ce qu'on voit là. Les États-Unis, il y a beaucoup plus de dépenses de l'administration publique qui est fait pour l'enseignement que pour justement la santé. Donc, c'est intéressant de voir ça. On met aussi par opposition les pays dans tout ça. Donc, et au Québec, au Canada, excusez, je dis tout le temps le Québec, mais au Canada, on se plaint souvent par rapport à la culture. Hein? Mmh. Mais savez-vous que si on compare avec les autres pays, on dépense environ les mêmes sommes dans l'administration publique pour ce qui est de la culture que des pays comme la France, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, ainsi de suite. Ceux qui sont en bout de piste, là, qui dépensent le moins dans la fonction publique en termes de subventions ou d'organismes, là, puis il faut qu'on pense au Québec, c'est la SODEC, donc c'est tous ces organismes-là gouvernementaux qui sont là pour régir au Québec. On a juste à penser toute l'histoire de langue, là, puis de traduction des films, là, qui est le saut qu'on a au Québec, là, je me souviens pas de l'organisme, là, la régie des, c'est pas de loisirs?
La régie du cinéma, je pense.
En tout cas, une chose, genre, ben, si on regarde, c'est sûr que ceux qui dépensent le moins, ben, c'est le Japon, les États-Unis. Ben, c'est sûr, aux États-Unis, là, si tu veux être une star, ben, tu fais quelque chose de bon, puis tu promouvois ton produit, puis aujourd'hui, de toute façon, avec les médias sociaux, YouTube, tu sais, tu peux devenir une star. T'as pas besoin des subventions, puis il y en a qui vont dire, oui, mais là, tu sais, le volume, puis le nombre d'habitants est pas le même. Non, mais c'est le fun, c'est très révélateur. Fait que quand les gens se plaignent qu'au Canada, on ne met pas d'argent à travers nos gouvernements dans la culture, ben vous vous trompez. On en a la preuve. Mmh. Même chose dans le domaine de la santé. On se plaint souvent, mais on cotise énormément à travers notre fonction publique. Et c'est comparable à des pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège. Puis ceux qui traînent encore là, en bas de peloton, l'Allemagne, le Luxembourg, le Japon, Pays-Bas, Belgique, Autriche, là, États-Unis, regarde, on parle de fractions qui sont des fois le tiers de ce que met le gouvernement canadien en santé. Okay. Fait qu'arrêtez de dire qu'on n'en met pas d'argent, on en met de l'argent. Mm-hmm. J'espère que mais tous ceux qui nous écoutent sont plus de droite, savent que c'est pas l'argent le problème, là, c'est l'administration, c'est la gestion, c'est les structures. Mm-hmm. Même chose au niveau de l'enseignement, un niveau qui est très comparable, donc... des pays comme l'Autriche, la Finlande, la Belgique, puis là, on peut voir qu'en Grèce, là, ben les gens peuvent se plaindre. Mais on voit que la Grèce aussi sont en redressement. Fait que il y a des choses qui s'expliquent là-dedans. Il hein. Y a des pays qui ça va pas très bien. Fait que c'est sûr que quand tu regardes les pourcentages, sont un petit peu plus bas. Donc, c'est le fun de voir ça. Et c'est plein de chiffres comme ça qui sont très, très, très détaillés. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est de la consulter là, si vous voulez avoir plus de détails. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup en regardant tout ça, c'est vraiment le niveau de la fonction publique au Canada qui, je vous dirais, là, dans la plupart des cas, des tableaux dépassent de façon assez remarquée, je dirais, la France. Que ce soit en termes de population desservie, que ce soit en termes d'investissement, parce que oui, il y a le nombre d'emplois, mais il y a le coût de ces programmes-là, la part, comme j'ai dit, de cette contribution-là de l'État à l'intérieur du produit intérieur brut d'un pays qui est assez importante. Donc, je peux comprendre qu'au Canada, on a tendance à vouloir des fois injecter de l'argent en mettant des programmes et des structures parce qu'on crée, de façon artificielle tant qu'à moi, puis là, on pourra avoir un débat, un de ces quatre, là, à savoir si la création d'emplois dans la fonction publique, c'est artificiel. Mais moi, je pense que oui, là, parce que ultimement, c'est des pensions et c'est des charges qu'on met à l'État. Hein.
Effectivement.
Puis je sais qu'il y en a qui jouent beaucoup la carte de la création d'emplois, puis on l'a vu tantôt quand on a parlé avec Yann, effectivement, dans le cas du gaz de schiste, on promouvoit beaucoup la création d'emplois, mais c'est de l'emploi dans le secteur privé, là. On parlait pas de création d'emplois dans le domaine public. C'est les entreprises privées qui les créent, ces emplois-là, et c'est souvent en espérant qu'il n'y ait pas trop de subventions. Et bon, le gaz de schiste, je pense que c'est pas un domaine qui est très subventionné, malgré que ça, j'ai pas fouillé à savoir si au Québec, on est dans...
Ben, c'est parce que, ouais, au Québec, c'est parce
on est les champions de la subvention, je dirais, toute industrie confondue, là, mais
le marché, il est comme... il n'est pas existant vraiment aujourd'hui. Je pense qu'il parlait de 30 puits présentement.
Ben, c'est ça. Fait que,
les subventions sont à venir.
Sont à venir peut-être, mais c'est ça qui est important de souligner, c'est qu'au Québec puis au Canada, quand on crée des emplois dans la fonction publique, ben, on crée des charges sur le dos des citoyens qui doivent en assumer les frais. Et là, je pense qu'il faut avoir, comme on a dit tantôt, une vision très juste aussi de la fonction publique, mais c'est juste qu'il faut se comparer. Je pense qu'il faut... Et l'étude, c'est ce qu'elle permet, c'est de se comparer avec d'autres pays. Mmh. Est-ce qu'on dépasse les autres pays en ce sens, parce que des fois au Québec, on se regarde, ou au Canada, on dit « Ah, c'est outrageux, on dépense pas assez pour ci, pour ça », mais quand tu regardes les autres, puis là, tu vois que tu dépenses autant ou sinon plus, ben je pense que tu peux des fois peut-être ramener le... Et c'est peut-être une façon aussi de l'expliquer aux gens que on est en train de dépasser peut-être notre capacité. Ça, on le sait, là, mais des fois, il faut utiliser des statistiques.
En convaincre d'autres.
C'est ça, en convaincre d'autres. J'ai une autre statistique ici qui est très intéressante. Le salaire statutaire annuel des enseignants dans le domaine public, après 15 ans d'exercice, OK? Donc, par rapport au PIB par habitant. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit qu'encore là, le Canada se démarque parce qu'on est vraiment plus élevé. Ça veut donc dire que on a, et tantôt, ce que je vous ai dit par rapport à la France, c'est qu'eux autres, ils mettaient beaucoup plus l'accent sur l'enseignement par rapport à la fonction publique. Mais on voit qu'au Canada, ça nous coûte plus cher. Mais pourtant, moi, je pense que le coût de la vie est beaucoup plus élevé en France. Et normalement, si on regarde l'euro et les salaires sont normalement plus élevés. Mais quand on le compare, et là, il les ramène sur une monnaie qui est les dollars US, on voit qu'il y a une grande différence. Et où ça coûte le moins cher pour institutionnaliser les gens, ben c'est la Norvège, la Suède, l'Autriche, l'Italie. J'ai dit institutionnaliser. Enseigner, en fait, aux gens. C'est là que ça coûte le moins cher. Puis où ça coûte le plus cher, l'Allemagne, la Suisse, le Portugal, le Japon, je sais pas ce qui se passe dans ces pays-là, mais et c'est la Belgique là, vraiment qui est la championne là-dedans. Là. C'est astronomique comme si on regarde les salaires. Puis comme salaire, en fin de compte, si on regarde là, les salaires qui sont versés au Québec, le comparable est, je dirais, assez identique là, quand on ramène ça au dollar US. Là, fait que ça a aussi aux entours du 40 à 50 000 $, tout dépendant là, du niveau de cycle là, en question. Donc, ça se compare encore là. Si on regarde là les dépenses dans le domaine de l'éducation, ça se compare avec le reste du monde. Au niveau santé, là, c'est là où on se démarque. Là, on est vraiment, je vous le dis, les champions. Ça nous coûte extrêmement cher. C'est là où on a le plus d'employés par rapport à la population. Vraiment, le Canada se démarque et est vraiment un champion toute catégorie.
Et compare-tu avec les deux autres C qui sont Cuba et la Corée du Nord?
Non, ou... malheureusement, on n'a pas été jusqu'à là dans l'étude.
C'est incomplet.
Comme je t'ai dit, on s'est limité. Non, mais on aurait peut-être été surpris. emploi dans les professions de santé par 1000 habitants, encore là, on voit que le Canada, écoute, on est quasiment au niveau de 40 employés qui travaillent dans les fonctions publiques liées à la santé par 1000 habitants. Donc, et là, je vous compare avec le plus élevé qui est l'Allemagne, aux alentours de 47, et la France à 30, l'Italie aux alentours de 20, l'Espagne aux alentours de 15. C'est énorme. Là. On a beaucoup de gens dans le domaine de la santé, on le sait au Québec. Et quand on regarde les médecins, tu sais, on dit au Québec, on n'a pas de médecins, puis ça nous manque. Ouais. Ben, effectivement, on a environ, on nous dit deux médecins pour 1000 habitants. Pourtant, quand on va en France, ça coûte moins cher, mais il y a plus de médecins. 3,5. Okay. L'Italie. Les États-Unis, pour le fun, les gens, tu sais, ils se plaignent. Hein. Les États-Unis, écoute, c'est un système de santé qui laisse les...
Les gens meurent. Qui,
ben oui, sur les trottoirs, non, mais pourtant...
Sur les gars, les,
si on
les
parle
bouches des coups,
du nombre là, de médecins meurent, par 1000 habitants, et là, je suis dans la fonction publique, là.
Combien?
2,5. Comparativement à 2 au Canada. Mmh. Donc, il y a plus de médecins dans la fonction publique aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Puis là... Imagine-toi si on inclurait les médecins privés. On tombe à quoi, là? On le sait qu'aux États-Unis, là, tu cours pas après les médecins. Ici, on le sait que c'est un problème. Mm. Fait qu'imaginez-vous, là, on décrit souvent mais quand on compare les chiffres, là, et je suis curieux de voir pourquoi on n'utilise pas ces chiffres-là quand on...
Parce qu'il faut pas que ça le sache.
Ouais, mais ils sont rendus disponibles. Puis c'est très crédible, hein, je vous le dis, là, c'est très bien fait. Les infirmières, même chose, on se rend compte. Par contre, c'est là qu'il y a un déséquilibre. On voit que le Canada, on dépasse certains pays, justement. On a plus d'infirmières, je sais pas. Tu sais, ben, je le sais, en partie, là. On sait qu'il y a un exode aussi des cerveaux au Québec. On les paye pas, on les empêche d'opérer au Canada. On leur met des bâtons dans les roues, puis s'ils veulent se partir des cliniques privées, ben là, on en fait des démons.
Exact.
Dépenses publiques en la santé, ben là, c'est sûr que le Canada est champion. Les États-Unis qui, bon, ils sont là aussi dans la course. La France qui est un peu derrière nous. Les dépenses publiques et privées en santé, ben là, c'est là que c'est intéressant. On voit que les États-Unis, regarde, ils se démarquent là. Le graphique, il dépasse la barre là, de tout le monde. Oh wow. Sont ici. Donc,
on dirait une courbe normale, là. Ceux qui connaissent ça, la courbe normale.
Et ça, c'est en pourcentage. Fait que venez pas me dire qu'ils sont plus, là. Non, c'est des pourcentages. Donc, les dépenses publiques et privées aux États-Unis, on parle de 16% par rapport au PIB. Si on met le Canada, on est à 10%. La France, on est à peu près à 13-14%. Tu veux intervenir? Je vais t'ouvrir un micro, Gant. Ouais. Parce qu'Yann est encore avec nous en passant.
Ouais, ça m'intéresse ce bout-là parce que j'ai étudié, dans le fond, dans mes cours en actuariat, le système de santé américain pas mal. Puis c'est un système, au Canada, dans le fond, c'est le réseau public, là. Ce qu'il faut comprendre en santé, tu as trois aspects en santé que tu peux travailler. Tu peux travailler sur l'accès, tu peux travailler sur le coût, puis tu peux travailler également sur la qualité des soins. Aux États-Unis, ils sont très bons en termes de qualité des soins et aussi en termes d'accessibilité.
Ouais.
Quand il n'y a pas de liste d'attente en général. Mm-hmm. Sauf en termes de coûts, c'est catastrophique. Puis la manière que ça fonctionne un système de santé, c'est vraiment un triangle. Si tu tires plus sur un coin du triangle, ben veux, veux pas, tu réussis à moins bien faire d'un autre côté. Au Canada, où est-ce qu'on est vraiment champion? C'est dans l'aspect contrôle des coûts. On a un des systèmes de santé qui, curieusement, il coûte pas si cher que ça. On pense qu'il coûte cher parce que c'est un poids énorme sur nos finances publiques. Mais comme il n'y a pas beaucoup de dépenses dans le privé, c'est un système de santé qui ne coûte pas si cher que ça en bout de ligne quand on additionne toutes les dépenses par rapport à un système américain qui est très, très coûteux. Sauf que on a de la misère à y accéder.
Puis c'est bien ce que tu dis là, parce que quand je parle du pourcentage de ces dépenses-là par rapport au PIB, il faut dire qu'aussi, au Canada, on n'est pas des grands créateurs de PIB. T'sais, on est limité, on n'exploite pas nos ressources naturelles. T'sais, le PIB, on voit, il recule, puis c'est parce qu'on n'exploite pas nos richesses, on ne crée pas d'emplois actuellement.
Mais c'est ça la beauté de tes chiffres, c'est qu'ils ont tout ramené à la dépense commune.
C'est ça.
Comme c'est le même, il faut faire des études internationales.
Oui, tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, tu dis que tu as regardé un peu les chiffres, puis effectivement, on voit que on contrôle peut-être bien nos coûts dans le domaine de la santé, mais quand on regarde le nombre de médecins, on voit qu'il y en a moins. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, quand tu regardes l'adéquation, tu dis, ça coûte moins cher, mais en bout de piste, on a beaucoup moins de services. Là.
C'est qu'un système entièrement public, justement, tu le dis, tu as moins de services. C'est que la manière de contrôler tes coûts, parce que la demande, quand c'est gratuit, est illimité. C'est-à-dire, il va toujours avoir de la demande des soins de santé. Ouais. Fait que la seule façon que toi de contrôler tes coûts, c'est de créer des listes d'attente. C'est de créer des nombres limités de places pour les former des futurs médecins, former des futures infirmières. Donc, tu contingentes tes cours. Tu contrôles aussi ton nombre de lits dans les hôpitaux. Tu sais, quand on dit il manque de lits dans un hôpital, c'est pas Simmons qui est en faillite.
Non.
c'est juste que on veut pas qu'il y en ait trop de lits parce qu'à un moment donné, les hôpitaux, ils ont un budget à remplir. Le budget est fixé par le ministère. Et puis, on les force à couper. Puis, la manière qu'ils coupent, ben, ils créent des listes d'attente. Si les gens, ils sont obligés de perdre le temps sur une liste d'attente, ils restent à la maison. Les quotas aussi, tu nous parles un peu sur les salles de chirurgie. C'est pas vrai qu'un chirurgien, ça peut juste opérer une journée et demie par semaine. Ça peut opérer plus. Sauf qu'il se fait imposer un quota sur le nombre de chirurgies parce qu'il est payé à l'acte.
Le centre de la petite enfance, c'est avant que ça démarre. Puis, on le sait, il y a beaucoup d'investissements comme ça que le gouvernement exploite pas à plein régime.
Ils peuvent pas.
Limiter.
Ah oui, la raison, comme je te dis, le système de santé entièrement public, mais il contrôle énormément ses coûts, mais la façon de contrôler les coûts, c'est de réduire les services.
Mais pourquoi, tu sais, puis pour moi, c'est inconcevable. Je peux même pas argumenter là-dessus. Pour moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui me dit, ouais, mais on peut pas ouvrir le privé. Mais non, mais ouvre justement l'aspect privé dans l'affaire, puis ça diminue pas ta qualité de service ou les coûts, je veux dire, vont demeurer les mêmes dans la fonction publique. Ça fait juste offrir une alternative et compenser justement cette...
C'est ça. Quand on regarde les meilleurs systèmes de santé au monde, les États-Unis sont pas classés dans les meilleurs systèmes de santé.
Non.
Puis je pense que c'est un peu ce qu'on souffle le Canada de ça, notre trop grande proximité avec les États-Unis. On veut tellement pas aller vers leur système de santé qu'on s'oblige à aller faire exactement le contraire de ce qu'ils font. Mais en bout de ligne, on n'est pas mieux. Les systèmes de santé les plus efficaces au monde, ça va être des systèmes de santé mixtes. Tu vas retrouver beaucoup dans des pays comme la Suisse, les pays scandinaves, la France même, qui a un très bon système de santé mixte. Donc, c'est vraiment eux autres les exemples à copier. Mais au Canada, on veut tellement pas faire comme les Américains qu'on socialise énormément notre système de santé par la loi canadienne sur la santé, entre autres. Et puis, à quelque part, c'est là que le bas blesse.
C'est drôle, ils sont hypocrites un peu, parce que si quelqu'un a un accident de travail de la CSST, envoie le patient dans le privé, parce que c'est plus vite, puis ça coûte moins cher.
C'était vraiment
hypocrite.
Mais tu sais, je veux dire, après ça, on va se plaindre qu'on n'a pas de médecin au Québec, mais oui, mais c'est normal, si tu le topes au niveau de ses rémunérations à 175 000 par année.
Tu n'acceptes pas non plus l'université, je veux dire.
Ben, c'est ça.
Mais quand ça te prend
35 ans.
Tu le contingentes. Mm-hmm. C'est plus facile de devenir médecin aux États-Unis.
Puis c'est difficile à l'heure actuelle. On le sait, il y a une crise au Québec là, de médecins de famille. On n'a pas accès au... Écoute, moi, je suis maintenant dans une clinique là, où tu as rendez-vous, mais écoute, c'est une jungle. Faut que tu prennes 2 jours faut que tu t'absentes 2 jours quasiment au travail pour avoir un entretien avec un médecin. Puis ils sont super chargés là, au niveau de la charge de travail.
Le système de santé, les coûts augmentent d'environ 6% par année, même un peu plus. C'est un peu normal, c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde, sauf que ça revient tout à la base. Pour contrôler ces coûts-là, on coupe les budgets.
Effectivement.
Ça, puis le Parti conservateur parlait que pour le renouvellement des transferts provinciaux en 2014, ils prévoient encore continuer à augmenter de 6 % les transferts chaque année. Là. Ça, mais moi, le débat sur les médecins de famille, il faudrait qu'on l'aille un moment donné. Là,
ouais, parce ben, que c'est ça.
Ça prend-tu vraiment un médecin de famille par habitant au Québec? Là? J'ai un peu de misère avec ça. Là.
Non, c'est ça.
Ça prend, en tout cas, on en parlera une autre fois. Là, mais...
des systèmes qui sont proposés aux États-Unis, généralement, ben, les modes de paiement des médecins ne sont pas les mêmes. Il y a probablement beaucoup d'assureurs privés. Là. Qu'est-ce qu'une compagnie va faire, c'est qu'ils vont dire, par exemple, à un médecin ou à un assureur, qu'est-ce qu'il va faire avec les médecins? Il va dire, regarde, je te donne telle population, je te paye tel montant par mois, par membre. Donc, mettons que, je sais pas, moi, on lui donne 5000 membres, on dit, t'es payé en fonction du nombre de membres que t'as. Mais d'un coup, t'as cette paye-là, c'est un capitation qu'ils appellent aux États-Unis, d'un coup, t'as cette paye, ce paye-là, ben, c'est toi qui gères tes coûts. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce que le médecin fait? Ben, le médecin, il a un incitatif à garder ce monde-là en santé. Donc, s'il vient pas me voir, c'est bon pour moi, parce que je dépense pas dans ce temps-là, puis j'ai le même montant d'argent. Donc, il va y avoir beaucoup de préventions qui vont être faites de ce côté-là. Mm-hmm. Les failles du système américain, c'est évidemment les gens qui n'ont pas accès à l'assurance. Ouais. C'est pour ça que les systèmes de santé mixtes ailleurs dans le monde sont plus efficaces.
Mm-hmm. Mais aussi, puis dans tout ça, je pense qu'avec recul, puis c'est bien de mettre les choses en perspective. Comme tu dis, on est un peu toujours isolé par rapport à nos voisins, puis on a tendance au Québec à puiser dans cet exemple-là qui est des fois un peu moins près de notre réalité par rapport à notre système de santé, de la façon qu'il est construit. Puis les exemples, on peut les puiser ailleurs dans le monde, puis il y en a des belles exemples. Là. Comme tu l'as dit, les pays scandinaves, on le voit, ils contrôlent bien leurs dépenses, puis ils sont capables d'avoir là des... Écoute, tantôt, là, je ne retrouve plus ma feuille des médecins, mais c'était eux, les pays scandinaves, où il y en avait le plus. Là.
Puis c'est ça. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est quand on veut designer un système de santé, c'est de ne pas être dogmatique. Comme je te disais, c'est un triangle. Si tu tires trop sur un côté du triangle, tu vas nuire aux deux autres. Et puis, à quelque part, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de trouver un juste équilibre. Donc, faut pas que abolir les listes d'attente devienne un objectif. Faut pas que le rendre le moins coûteux possible devienne un objectif. Faut pas non plus que la qualité des soins soit incroyable. Je veux dire, à quelque part, il y a un niveau de qualité à atteindre, mais que continuer à investir de l'argent pour améliorer la qualité, ben le gain est plus assez important pour ce qu'il faut faire. C'est vraiment aller chercher un équilibre entre qualité, accès et coût du système de santé. Puis c'est ça que les pays qui ont un système mixte réussissent mieux à faire que le Canada
parce
et les États-Unis.
C'est ça, je fais une corrélation entre deux tableaux. En fait, si je regarde les dépenses publiques en termes de santé, tu vois que des pays, c'est ça justement, qui ont les plus de médecins, là, je pense, je vais citer le Danemark, l'Espagne, l'Italie, même la Belgique. Écoute, la Belgique, il y a 4 médecins de famille par 1000 habitants. Là. C'est le double du Canada. C'est beaucoup, là. Imaginez-vous qu'on aurait 2 fois plus de médecins demain matin. Ben, c'est eux qui dépensent le moins en termes de pourcentage de dépenses dans la fonction publique. T'sais, quelque part, il y en a qui réussissent, là.
Non, oui, puis c'est faut juste de copier. Puis à quelque part aussi, il n'y a aucun système de santé parfait. Faut pas penser que ça existe, le système parfait. Sauf qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Et puis, les meilleurs exemples, ce ne sont pas les États-Unis, puis ce ne sont pas le Canada.
Mais c'est cette pensée au Québec qu'on a absolument... On a radié le privé, là, il n'y a pas question.
Ironiquement, au sein du Canada, c'est au Québec que tu vas retrouver le plus de cliniques privées.
Ouais, je sais.
C'est une remarque que Danielle Smith a faite récemment. Ouais. Elle disait en Alberta, des cliniques privées, il n'y en a pratiquement pas.
Mais presque pas.
Parce qu'une clinique privée, il faut que tu désaffilies du réseau. Il ne faut vraiment pas que tu reçoives de patients RAMQ. Donc, il faut que tu sois autonome entièrement financièrement. On permet pas que tu aies des patients RAMQ en plus de tes clients privés. Il faut vraiment, c'est soit un, soit l'autre. Même si ça marche partout au Canada, puis c'est au Québec qu'on retrouve le plus de cliniques privées, si je me trompe pas.
Mais Danny, tu disais qu'on faudrait en parler, effectivement. Mm. On a Dr Lacroix, là, qui incessamment aussi, on est supposé d'avoir l'émission, puis lui, bon, il y a un modèle, justement, de clinique privée. Ça peut être intéressant d'avoir ce dialogue-là, parce que on le sait que ça va passer par ça aussi, les finances publiques. Hein. Il va falloir assainir les dépenses dans le domaine de la santé, puis c'est ce qui va être la plus grande charge, on le sait, avec le vieillissement de la population. Oui, il y a les fonds de pension, mais dites-vous que le domaine de la santé, c'est ce qui accapare présentement là, le budget québécois, canadien. C'est incroyable. Quand on regarde les sommes, là, c'est faramineux. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me dis, oui, on a des choix à faire, mais en même temps, il faut adresser, il faut offrir le service puis la qualité qui vient avec. Là, parce que si on paye puis on n'a pas la qualité, mais on n'a pas le service, là. On entend beaucoup d'erreurs médicales là, ce temps-ci au Québec. Hein. Ça a commencé, puis je sais pas si c'est parce que les gens dans le domaine sont fatigués puis on commence à avoir des juniors, mais c'est pas le fun de voir les erreurs.
Non, non.
Tu regardes ça aller, là,
On a tous été une journée dans une cafétéria d'hôpital, puis t'entends les infirmières discuter entre eux autres, puis une qui dit « ça fait 3 ou 4, 16 heures que je fais en ligne ouais. ». C'est fou. C'est sûr, on court après le trouble. Là.
Définitivement. C'était à peu près ce que j'avais à vous livrer comme contenu. Donc, je vous invite à consulter l'étude en question si vous avez quelques minutes, puis je dirais que ça se feuille assez bien. Donc, c'est au www.strategie.gouv.fr et ça s'appelle le tableau de bord de l'emploi public. Et c'est le fun parce que, comme je vous dis, à la fin, là, vous avez des sections pour chacun des pays. Donc, on décortique les États-Unis, le Canada. Donc, on regarde, on explique là, en fait là, la progression du modèle de l'administration publique. Je peux vous donner un exemple. Là, on dit, regarde, l'historique des réformes. On dit 1963, politique de réaménagement des effectifs, gel des recrutements. Ça, c'est pour le Canada. Décennie 70, déficit des budgets fédéraux pendant 20 ans. Alors, 28 milliards de 89-90. Fin des années 80 et décennie 90, resserrement drastique de l'appareil gouvernemental et réduction massive de l'emploi public fédéral. Donc, il parle du rapport Nielsen. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je m'en souviens pas en 86.
Mais juste une affaire là-dessus, justement. Rappelez-vous qu'il y a eu un tollé au Canada anglais qui a eu des coupures au fédéral?
Oui, effectivement.
Ça jappe au bout ici, ben ouais. Là, pour des petits chiffres de rien, mais les coupures que l'air chrétien, là, qu'ils ont eu là-dedans, ça s'est fait en douceur.
93, c'est ça, c'est la loi sur la compression des dépenses publiques. Mmh, le
ça
rapport.
Fait seul,
ah puis... oui, c'est. Il y a eu le rapport aussi repenser le rôle de l'État avec examen systématique de tous les programmes et services fédéraux en 94. Sous Jean Chrétien.
Si juste y penser, là, il y aurait des manifestations dans la rue au Québec.
Oh oui.
Puis au Canada anglais, ça s'est fait. Il n'y a pas eu de. En tout cas, de mémoire, là, il n'y a pas eu de saccage. Puis,
non.
De manif monstre. Puis,
Hey, on parle réduction des budgets ministériels là, à une certaine époque de 20 à 50 il y a eu beaucoup de diminutions là, du côté. Puis je le redirai toujours, mais le meilleur ministre des Finances, c'est Paul Martin. C'est juste de valeur. Ce gars-là, il avait trop d'ambition, puis il a voulu devenir premier ministre.
Il y a eu le mandat probablement de la haute.
Je sais pas si Yann, tu es d'accord avec mon affirmation, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est le meilleur. De l'ère moderne.
Qu'on a connu, en tout
cas. Ouais. Qu'on a connu. Donc, on va faire une petite pause là-dessus, et puis de l'autre côté, on se retrouve avec la chronique à Danny avec le troisième côté de la médaille.
Yes.
Donc, vous êtes à connaître la suite. What a waste of time.
I'm not over.
Alors, on est de retour. On envoie nos salutations à Yann qui vient de nous quitter à l'instant. Toujours intéressant, chaque fois qu'il vient ici.
On le veut encore.
On a du temps en masse, comme on dit. C'est ce qu'il nous disait. Ça a l'air qu'à d'autres stations, on limite à 12 minutes, mais nous autres, il n'y a pas de limite à connaître la suite.
12 minutes entrecoupées.
Ouais, c'est ça. Hey, tu vas-tu être bon pour nous faire ta chronique? Parce que là, notre ami. Notre ami Danny. Petit début de fièvre, quelque chose, là. C'est,
je l'ai bien rien.
Pas dans son assiette, comme tu dis.
C'est ça. Ouais, je voulais vous parler de quelque chose ce matin. Ce matin.
Si bon. Là, t'as vraiment
une fièvre. Je prends pour acquis que vous l'écoutez samedi matin.
c'est bon. Ouais,
j'ai amené deux extraits que j'aimerais vous faire entendre. Je sais pas si vous avez reçu des messages téléphoniques, mais moi, j'en ai reçu deux, dont deux très, très rapprochés de la part d'un des chefs d'un parti canadien.
Mais là, je suis en train de suspecter, t'es-tu membre? T'as-tu ta carte de membre?
Même pas. C'est juste que j'ai fait la gaffe de pas encore me mettre sur la liste des gens qui devraient pas, que les gens qui font du télémarketing, ouais. Là, j'ai pas encore mis mon nom pour pas que le monde m'appelle.
Mais ça marche-tu bien cette histoire-là? Parce que ça a l'air qu'il y en a qui reçoivent pareil des
appels. J'ai l'impression que vu qu'il y a de moins en moins de monde qui laisse ces compagnies-là appeler, que ça tombe toujours sur moi.
Okay.
C'est 3-4 appels par semaine. Puis là, en plus, c'est les politiques. Donc, entre autres, le Parti conservateur m'a appelé au moins 4 fois. Et je leur ai dit, moi, je ne dis jamais pour qui je vais voter. Et je me suis retenu parce que souvent, les gens, ils prennent pas des notes de ce que je leur ai dit. Mais je leur aurais répondu, tant que vous allez vouloir financer encore la dévie, je voterai pas conservateur, mais je me suis retenu. j'ai reçu deux appels, donc je sais pas si vous avez eu les mêmes. Donc, le premier message que j'avais sur mon répondeur, il provenait de Jack Layton. Donc, on passe ça.
Bonjour, ici Jack Layton, chef du NPD. Comme vous avez pu le constater lors des dernières semaines, le Québec est touché par un vent de changement, un changement qui est maintenant nécessaire parce qu'on tourne en rond à Ottawa. Mes amis, je suis prêt à apporter ce vrai changement à Ottawa, à donner aux Québécois une vraie voix au Conseil des ministres. Et tout ça commence avec un vote, votre vote. Je vous demande donc le 2 mai d'indiquer clairement que vous souhaitez ce changement. Si vous voulez en apprendre plus au sujet du NPD, vous pouvez visiter le npd.ca. Il est temps que quelqu'un se mette à la tâche. Et nous sommes prêts pour ce défi. Nous ne pouvons y arriver sans vous. Alors, travaillons ensemble. Relevons nos manches et commençons dès le 2 mai en votant pour le NPD. Merci et au revoir.
Donc ça, c'est le premier message que j'ai eu. Et le deuxième que j'ai eu, je sais pas si vous l'avez eu, j'ai eu un appel de Christian Paradis, qui est le lieutenant du Parti conservateur au Québec. Donc un appel de Christian Paradis. Entre les deux. Donc, moi, j'ai dit, je vais vous parler, prendre un petit 3-4 minutes pour vous expliquer comment j'ai vu ça, parce que moi, je me suis dit, hey, c'est une maudite bonne idée de nous m'appeler comme ça, puis de faire un message sur mon répondeur, parce que tout le monde sait que faut que le monde me dise quoi faire, tu sais. Moi, là, je suis pas capable de me débrouiller tout seul, je suis pas capable de décider pour qui je vais voter. Donc, ils ont bien fait, ils ont tombé sur la bonne personne. J'ai vraiment besoin de leur aide, donc merci aux deux. Bien déçu qu'Ignatieff n'ait pas appelé, ni le Parti vert.
Ça ouais, c'est compliqué. Ça.
Mais donc, la prochaine élection, pensez-y, parce que ça m'a tellement influencé. Aïe, aïe, aïe. OK. Première, je voulais dénoter quelques différences, premièrement, entre les deux. C'est que, premièrement, dans le cas du NPD, au moins, c'est le chef qui m'a appelé. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle attention. Hein, il m'a parlé, puis tout ça. Donc,
accès directement au chef, là. Toi,
c'était important.
Ah, oui,
je me suis senti important, full pin. Le désavantage, par contre, qu'est-ce que l'État n'aurait pas dû faire dans le message, c'est de me donner le nom de leur site web. Parce que si je vais le consulter, je vais tomber sur leur plateforme, et c'est là que je vais dire, moi, je vote pas pour eux autres, OK? Donc, ça, c'est le désavantage.
C'est le désavantage. Ne pas trop en dire.
Exact. Donc là, les spin doctors, écoutez-moi, là, la prochaine fois, là, non. Donnez pas le nom du site web, parce qu'on va aller voir que votre programme, ça se tient pas debout. OK. Dans le cas de l'appel du Parti conservateur, au moins, la personne a nommé mon nom. Ah. Vous avez remarqué, là, ils disent Danny.
Ah, c'est vrai.
Continue, ouais. Donc c'est très personnel. Par contre, c'est pas le chef qui m'a appelé. Donc là, je suis ambivalent. Tu sais comment je suis influençable. Je suis ambivalent. Il m'a nommé, mais j'ai pas eu. C'est pas Harper qui m'a appelé.
Ouais.
Au pire, faites appeler Jacques Demers, ça aurait été le fun. T'sais.
Ouais.
T'sais, okay, j'aurais pu parler au hockey avec, tout ça. Pas rire du fait que les Canadiens sont éliminés, c'est quelque chose. Mais là, fait que c'est un des avantages. Il a nommé mon nom, mais le désavantage, c'est pas le chef qui m'a appelé. Un des avantages que eux ont eu dans leur appel, je sais pas comment ils ont organisé leur façon de faire leur message, tu vois qu'ils ont probablement eu accès à plus d'argent que le NPD, c'est qu'ils nomment le nom du candidat dans mon comté.
Ouais.
Donc ils ont dit, c'est votre candidat du Parti conservateur, c'est Sylvie Boucher. Donc ça l'aide aussi. Je vais pouvoir, tu sais, moi je savais pas c'était qui, donc je vais pouvoir le savoir à cette heure pour qui voter. Et c'était une joke en passant. Et ensuite, il m'a dit que à tel endroit, tu peux aller sur un site web là, pour savoir où aller voter. Donc, au moins ça, c'est pas pire. Probablement qu'ils avaient pas su qu'on savait chacun une carte d'électeur puis qu'ils nous disent où voter. Donc, ça m'a le rappelé. T'sais. D'un coup, je l'aurais perdu puis ça.
Mais
finalement, ils donnent un numéro de téléphone pour appeler. Donc, mettons, je voudrais jaser avec Sylvie Boucher. Je suis sûr qu'elle est super facile à rejoindre. Que je peux lui dire, c'est ce que tu penses de ça, Sylvie? Tu sais, puis Sylvie, la dévie, tu peux-tu laisser faire?
Ouais.
Hein? Fait qu'il y aurait peut-être tout ça là, qui aurait pu être fait. Donc, je pense que là-dessus, pour les appels, je suis content que Jack m'ait appelé, mais d'avoir eu ce que le leader du Québec, du Parti conservateur, ça m'a déçu un peu, mais au moins, je sais où aller voter.
Ouais.
Ça, c'est vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Donc, j'ai une petite chronique à part ça. Ça me tendait de faire de l'humour, là, parce que me faire prendre pour un « hein », j'aime pas ça. Et je suis tanné de vos appels, j'ai hâte que l'élection passe. Je sais pas s'il y a une date pour arrêter d'avoir le droit de faire ça. Je sais pas si le jour de l'élection...
Ça doit être le jour de l'élection, aussitôt que les scrutins sont ouverts.
Ouais, mais je regardais ça, là, le pouvoir que le DGE au Québec a par rapport à lui du Canada, là, c'est vraiment deux mondes.
Ouais,
il y a un site internet, là, je m'en rappelle pas du nom, tu t'en vas là, tu marques ton code postal, puis il dit pour qui...
Résumé!
Oh, c'est parti.
Non, non.
je vais résumer. Okay. Parfait, le gros calme, je vais résumer. Mais il y a des sites web qui c'est permis, puis là, tu sais, je suis toujours ambivalent de dire, est-ce que, écoute, là, la liberté individuelle devrait dire le gouvernement ne m'aide pas, mais de l'autre, c'est comme bizarre, c'est que il y a... Où est-ce qu'ils ont pris leur argent pour faire ça, je sais pas, mais il y a un site web, c'est dingue, je l'ai pas, tu marques ton code postal puis ils disent pour qui voter pour ne pas que le Parti conservateur rentre. Puis ça, le DGE, il fait rien de ça. Ouais. En 2008, il y avait eu plein de vidéos sur YouTube, des artistes qui criaient aux coupes à blanc, là. Il y avait 0.5% du budget qui avait été coupé à coupes à blanc. Hein? Donc, tu peux faire ce que tu veux, on dirait. Hein? Puis le paradoxe suprême là, du DGE du Canada, c'est quoi? C'est faites ce que vous voulez, partez-vous des sites anti-Harper. Moi, j'ai eu des pamphlets, probablement du Bloc québécois, mais ils n'ont pas mis le logo, dans ma boîte aux lettres, disant « vote anything but Parti conservateur ». Tout est légal. Mais bizarrement, lundi soir, sur Twitter, on n'aura pas le droit de parler des élections.
Ouais,
il est où, là? T'sais, décidez-vous, là. Puis l'effet, là, je pense qu'il y avait des gens qui disaient que ça remontait aux années 30, là, ce genre de loi-là. Bon, ça serait peut-être temps de devenir un petit peu plus moderne. Voilà. Ça vous dit à peine? Ouais, parle-moi ça. Troisième côté de la médaille.
En résumé, je suis à la fois pour et contre. Parle-moi de ça, un show qui a des opinions tranchées. Hein?
À sort de chez vous, puis vire à droite.
J'ai pas peur, moi.
Oh yes! Donc, il reste pas grand temps, mais c'est pas grave. J'ai vraiment le temps de passer ce que je voulais parler là-dedans. Parce que j'ai décidé que... en tant qu'un monsieur concept, de faire un lien entre la présence de Yann ce soir puis ma chronique. C'est-à-dire qu'il y a un point commun, c'est que ici, nous, on défend la liberté et la responsabilité individuelle, et lui, dans son organisme, il y a le mot liberté.
Oui.
Tu sais, méchant lien, c'est vraiment fort. Donc, j'ai dit, on va faire une chronique liberté. Et pourquoi je veux faire ça? C'est parce que ça m'a été influencé un peu par la première présence de Yann et de Joanne quand ils sont venus ici. On a continué à jaser après l'émission. Et moi pis toi, on leur disait qu'il y avait eu un buzz assez fort sur Internet de la part du centre droit puis du droit de la droite qui a démarré à peu près vers 2006.
Oui, effectivement. Donc, ouais.
2006-2007, là, il y a eu vraiment une effervescence là-dessus. Puis Joanne puis Yann n'étaient pas vraiment au courant de ça. Et il y a certaines choses qui peut être intéressant. D'autant plus que lorsqu'on a été justement au réseau Liberté Québec à Montréal, on a rencontré plusieurs auditeurs.
Oui.
Et on s'est rendu compte que la majorité des gens aussi ne savent pas qu'il y a eu une effervescence depuis 2006 du côté de la droite puis tout ça. Donc je me suis dit, il y a sûrement des nouveaux auditeurs qui savent pas un peu certains aspects de ce qui se passait. Donc j'ai dit, je vais leur en parler un petit peu. Donc ceux qui sont habitués à la web radio, ils connaissent ça, mais les autres, ils vont peut-être apprendre quelque chose de ce que je vais vous annoncer. Donc premièrement, il y a un canal, je sais pas s'il est disponible au Canada ou juste aux États-Unis, là, mais il y a un canal qui existe sur XM justement, où est-ce qu'ils ont décidé d'ajouter une émission de radio qui s'appelle Free Talk Live, donc freetalklive.com, et cette émission-là, elle existe depuis, je pense, 2003,
ça fait un bon bout,
là, j'ai oublié de prendre la date, mais ça fait extrêmement longtemps qu'ils font ça. Et pourquoi, entre autres, qu'ils ont fait une émission comme ça? C'est que il y a eu un projet qui est démarré en 2003, si je me souviens bien, qui s'appelait le Free State Project. Donc, le Free State Project. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous faites freestateproject.org et vous allez arriver sur leur site. Et leur projet, c'est quoi? C'est de dire un peu, puis c'est un peu l'objectif de Réseau Liberté Québec puis d'une émission comme la nôtre, c'est de dire, si on augmentait le nombre de gens qui étaient plus à droite, à centre-droit, plus libertariens, puis qu'on les mettait tous dans un même microcosme, façon de parler, peut-être que ce serait le moyen d'influencer les politiques publiques de façon plus directe et tout ça. Donc, si notre crowd, nous, augmente, si l'effet des chroniques d'Éric Duhaime, de Joanne, de Yann dans les médias fait qu'on éveille des consciences, si notre émission le fait avec nos chroniqueurs, on va peut-être avoir une masse critique qui va être de plus en plus présente dans le centre-droit et qui va pouvoir influencer les politiques publiques. Donc, le Free State Project, c'est un projet américain et c'est exactement leur ce qu'ils visaient, dans le fond. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un vote parmi plusieurs membres libertariens américains et ont dit, d'après vous, si on voulait faire une terre d'accueil pour des gens qui pensent comme nous, ça devrait être laquelle aux États-Unis? Donc, il y a eu un vote qui a eu lieu et ils ont décidé que c'était le New Hampshire. Et moi, je suis né au New Hampshire. Donc, moi, ça m'avait frappé quand j'ai entendu parler de ça. Je suis né là de parents beaucerons et ça m'avait accroché.
Ça, c'est le Free Tax States, là, hein?
Le Free, ouais, entre autres, c'est ça. Ouais. Donc, eux, pour juste ceux qui s'y ont jamais remarqué, nous, nos plaques de char, c'est écrit, je me souviens, au New Hampshire, c'est « Live free or die ».
Yes.
Et ça dit tout ce que ça a à dire. Et c'est vraiment spécial. Eux, justement, donc là, leur projet, c'était quoi? Ils ont dit, on va essayer d'augmenter la masse critique. Ils ont décidé de mettre un objectif qui ont dit, vous allez signer une feuille, comme de quoi. Donc, le vote a choisi, nous, le New Hampshire. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens qui étaient intéressés sont allés signer une espèce de projet qui dit que quand on aura atteint 20 000 signatures de personnes qui s'engagent à déménager au New Hampshire, ben, on va enclencher le processus de dire, ben, venez-vous-en tout le monde. OK? Donc, déménagez pas tant que vous pouvez déménager avant, là, mais attendez d'avoir le monde, la masse critique que ça nous prend, là. Et là, on va avoir vraiment un impact sur la vie de tous les jours. Mais, ils ont déjà un impact parce que ça a toujours été comme ça le New Hampshire depuis deux siècles derniers. Là. C'est vraiment une philosophie qui existe au New Hampshire. Donc, si vous allez sur le Free State Project, puis juste finir là, pour le Free Talk Free Talk Live, là, ils sont rendus sur XM. Donc, cette émission-là, là,
ah ouais?
Ouais, elle est rendue sur XM depuis à peu près 2-3 semaines. Il suffit de savoir si
j'ai manqué ça. Ouais. J'ai manqué ça.
Fait que je sais pas s'il est rendu juste sur le XM américain ou non, mais promenez-vous.
Ah, peut-être, c'est pour ça.
Ouais, promenez-vous, là. Faut aller voir ça. Là. Je pense que c'était le 158, quelque chose comme ça.
OK.
Promenez-vous, c'était. Je vais essayer de vous trouver. Listening Options. Donc, sur le site web, freetalklive.com, là, vous allez avoir tous les détails. Donc, vous pouvez écouter ça sur Internet. Sur radio.
Donc, c'est un peu comme nous, là. On est diffusé sur la radio satellite et en simultané sur le web.
Exactement ça. Donc, ils sont maintenant là, sur le poste America's Talk. America's Talk, qui présentement est au XM 158.
C'est ça, on l'a donc, pas au Canada.
Non, mais peut-être, il y a, tu sais, il y a beaucoup de camionneurs qui écoutent. Ouais. Il y en a qui se sont abonnés XM aux États-Unis. Ouais. Donc, vous allez peut-être l'avoir. Puis peut-être avec le merge, là, XM Sirius, peut-être qu'on peut l'avoir là-dessus. Mais ça peut être un moyen. Puis ça donne bien. Cette émission-là, c'est à 10 heures. Donc, vous pourriez vous essayer, là, si vous avez le XM américain, XM 158, allez voir peut-être, là, que l'émission va commencer. Cette émission-là, ben, est diffusée, là, vraiment. Partout, Internet, les radios, je pense qu'ils sont rendus à 80, sont rendus exactement à 95 radios américaines qui les diffusent partout aux États-Unis. Donc, ils font un deal, eux autres, là, bien simple, là. Ils disent où est-ce qu'ils vont faire leur temps de pause, et ça permet à la station affiliée qui a décidé de les diffuser de passer le propre pub, et je pense que eux aussi ont leur certaine pub. Donc, ils ont vraiment arrangé les clocks de l'émission. Que ça soit gagnant-gagnant. Autant lui, il est diffusé ailleurs, autant que les stations, ils peuvent passer leur propre pub à travers l'émission. Donc, c'est une façon d'avoir été chercher beaucoup de monde. Donc, 95 stations vraiment partout aux États-Unis. C'est vraiment bien.
Un beau modèle de syndication.
Oui, c'est vraiment un beau modèle et ils travaillent fort. Eux, ils font beaucoup de lignes ouvertes, par contre. Donc, il y a un petit défaut à l'émission, c'est que moi, je trouve des fois, ils sont un peu rough avec les gens. Là, si tu fais une ligne ouverte, accepte les propos que tu reçois. Là, ils sont peut-être un peu rapides à dire « non, c'est pas bon », puis tout ça. Mais les autres, c'est vraiment un « minding », liberté, responsabilité individuelle, c'est vraiment ça. Et le Free State Project, pour y revenir pour les quelques secondes, c'est que, présentement, ils ont réussi à aller chercher 10 851 personnes, parce qu'il y a une... comme l'IEDM, il y a un décompte qui se fait sur leur site web. Donc, ils sont rendus à 10 851. Et présentement, il y a 903 personnes qui ont décidé de déménager, là, présentement. Donc, il y en a qui ont fait le choix. Entre autres, les deux animateurs de Free Talk Live. Et là, c'est des deux gars de Floride. Ils ont décidé de déménager au New Hampshire, justement. Puis, ils ont embarqué à full pin. Puis, ils ont dit, nous, notre contribution au Free State Project, ça va de partir une émission qui parle de ça. Et il y a certains points qui peuvent être intéressants là-dessus, entre autres, si jamais vous êtes dans le New Hampshire à la fin juin, il y a un événement annuel qui s'appelle le Pork Fest 2011, du 20 juin au 26 juin. Le Pork Fest, ça vient de... leur logo, c'est un porc épic. Donc, j'ai entendu une rumeur de la raison pourquoi c'était ça. Je sais pas si c'est vrai. Il paraît que, dans le fond, un porc épic, tant que tu y touches pas, ça va bien. C'est un animal qui est très, très, tu sais, qui est pas mauvais, tout ça, mais tout gifle, tu vas avoir des épines partout dans les mains, là. Donc, c'est un peu ça. Et sur le site du Free State Project, là, on vous donne tous les arguments pour déménager au New Hampshire, comment en faire, les organismes gouvernementaux sont où et tout ça. Et on vous apprend le top 100 des raisons pour déménager là. Donc, on vous apprend, entre autres, que, c'est sûr, peut-être que vous le savez, il y a... il n'y a pas de taxe provinciale, de state. Exact. Les gens ne payent pas d'impôts dans leur état. Le port d'armes est accepté, tout ça. Tu as même le droit de porter le couteau. Et pourtant, dans le site, ils vous disent le nombre de crimes par personne. C'est un des plus beaux aux États-Unis.
J'ai vu un article dernièrement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, là. Peut-être que ça a inspiré le journaliste en question. Je ne me souviens plus dans quel quotidien. Mm. Mais justement, on décrivait, là, écoute, moi, j'adhère aussi. Là. Peut-être là un jour, si j'ai à traverser la barrière, là, la clôture, ça sera là.
Donc, il y a différents points. Donc, je vais vous en nommer quelqu'un d'ici la fin du show, là, vraiment. Entre autres, on dit que là-bas, pas besoin. Donc, pas besoin d'avoir la ceinture de sécurité là-bas. Pas besoin d'avoir de casque pour circuler en moto. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'affaires le même. Nos taxes, il n'y a pas de taxes sur la machinerie pour les entreprises. Il n'y a pas de taxes sur le capital pour les entreprises. Il n'y a pas de taxes sur l'inventaire. Donc, il y a vraiment plein. Puis là, je parle d'entreprise, mais il y en a plein. Je vous le dis, freestateproject.org, allez voir ça. J'aurais fait ma contribution et peut-être aller signer, peut-être.
Ben oui. Hey, tu nous as fait découvrir encore quelque chose?
On essaye.
Tu vois, on n'a pas eu assez de temps.
Non, c'est pas grave.
Hey, merci tout le monde d'être là. Et puis, on est là pour encore un bon bout. On a eu une absence de 2 semaines, mais là, on est là jusqu'au 17 juin. Ouais. Donc, là-dessus, bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain sur les ondes du XM 172.
Bye. Thank you.